Vous allez entendre un message de William Branham prêché le 29 décembre 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « Tournez les regards vers Jésus ».
Yesterday and forever. I saw that the pillar of fire said to John, his never failing presence, as he said in John's, over there, his never failing presence will never leave you. Brother, my opinion tonight, sing that song, look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in his word, hallelujah. It's only that you look and live. Look, what do you see? Do you see deliverance? Do you see what he is?
Premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis vous entendrez la traduction française de ce message.
And when he looked after, he took a real look at him. He'd only been looking at the treasure before that, the pot of money they had. But one day when he looked and seen Jesus, you know what he seen? He seen he was guilty. He seen that he wasn't fit to live, and he hung himself. One morning, one of the greatest mornings in the all history of time, in closing, I'm saying this. There's something happening in Jerusalem. And all at once, a bunch of soldiers came down to the jail. I hear the jingle of the chains. I hear the dragging of the spear on the street. Who's back in there? Barabbas. He's ready to die. He's a thief. He's no good. He's a robber. He's a murderer. He's going to die. First thing you know, he said, well, this is all of it for me. I'll be executed this morning. The first thing you know, the guard opened the door. Step out, Barabbas. He stepped out and said, well, I guess this is the end. He said, Barabbas, you're absolutely free. What? I'm what? I'm absolutely free. You're free, I said. He said, how can I be free? He says, well, come here, Barabbas. Look up there. You see that man dying up there? He took your place. I wonder if we all tonight could look and see what Barabbas saw. Someone taking our place. He was wounded for our transgression, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace is upon him, and with his stripes.
Tout change quand Jésus vient. Il fait disparaître les ténèbres et répand la lumière. Nous en sommes si reconnaissants. Maintenant, c'est la première fois que Becky joue ici à l'église. Ainsi, c'était un cantique très approprié quand Jésus vient. Nous sommes reconnaissants d'être de nouveau ici ce soir et si reconnaissants de votre présence au milieu de nous ce matin. Et ce soir, j'ai là un sujet dont je voudrais vous entretenir dans quelques instants. Mais auparavant, j'ai quelques annonces à faire et je suis un peu enroué. Je pense que cela vient de ce que je parle trop. Je prêche longtemps. Quand je reviens ici et que j'enregistre ces bandes d'une heure ou deux, c'est dans le but de les diffuser dans le monde entier. Ainsi, je vous remercie d'avoir été si patient avec nous ce matin. Maintenant, il y a quelques points que j'aimerais mentionner ici. Premièrement, j'aimerais demander à l'Église de pouvoir apporter une petite modification ce soir. Je ne fais pas de vœux pour la nouvelle année. Nous devons rentrer chez nous demain. Ainsi, nous ne serons pas ici pour Nouvel An, mais nous penserons à vous. Je crois qu'il y aura une réunion ici, la veille de Nouvel An. Oui, c'est vrai, un service de veille comme on a toujours à Nouvel An. Nous aimerions rester, mais alors nous ne pourrions pas arriver à temps pour permettre aux enfants de retourner à l'école. Et mon épouse doit encore laver leurs habits, vous savez ce que c'est. Ainsi, j'aimerais remercier chacun d'entre vous pour tout ce que vous avez fait pour nous à Noël. Et vous, sœurs, qui êtes venues chez nous et avez apporté de la nourriture et différentes choses, si bien que lorsque nous sommes arrivés, Tout était déjà cuit et prêt à manger. Je vous en remercie beaucoup. Puisse Dieu toujours vous bénir. Et l'Église, de leur bon d'achat pour des habits ou en complet, si je le voulais. On me donne en complet chaque année. Et certains de mes bons amis viennent de m'en donner un. C'est pourquoi je pense que si vous êtes d'accord, je prendrai plutôt des chemises et des maillots de corps, dont j'aurai davantage besoin. J'aimerais utiliser l'argent pour cela si l'Église est d'accord. J'ai plus besoin de cela en ce moment que d'un complet. Ce jeune homme qui vient de chanter pour nous, frère George Smith, vient de Tucson. Nous avons été dans leur église, c'est l'église baptiste du Nouveau Testament. Son père est missionnaire. Je pense qu'il a environ 7 églises au Mexique. Elles sont assurément de gentilles personnes. Son père, sa mère et tous les autres sont de braves gens et George est un très gentil garçon. Je regrette seulement qu'il ne nous ait pas donné, avant de s'asseoir, quelques paroles de témoignage sur la grâce salvatrice de Christ dans sa vie. Et maintenant, concernant les messages, j'ai promis ici, il n'y a pas longtemps, qu'avant d'aller tenir des réunions ailleurs, je viendrai d'abord ici pour les enregistrer, et qu'ensuite, j'irai plus loin. C'était pour que les gens puissent avoir les bandes, que je voulais venir ici enregistrer un message et ensuite aller le prêcher ailleurs. Cela aurait permis aux gens qui font les bandes de les préparer pour que nous puissions les prendre en partant. Maintenant, je suis sur le point de partir pour une longue tournée d'évangélisation. C'est pourquoi je ne pourrai pas le faire dorénavant, voyez-vous. Et celui qui désire les bandes devra simplement se les procurer au fur et à mesure de nos déplacements. Et je pense, après tout, n'y a-t-il pas une réunion qui traitera de cela cette semaine, quelque chose au sujet des bandes cette semaine? De toute façon, je pense que frère Softman est ici et le représente frère Maguire. Je ne sais pas s'il est ici ou non. Je pense que Fred est ici. Quelqu'un a dit qu'il était là. Je pense qu'ils auront une réunion cette semaine, peut-être demain soir, au sujet des bandes. Nous en avons parlé l'autre soir dans la pièce d'à côté. Je pense que le moment est arrivé pour que quelque chose se passe. Ils prennent des mesures à ce sujet. Ainsi, dès maintenant, je vais probablement donner des messages à l'extérieur que je n'aurais pas prêché ici, au tabernacle. Et maintenant, je veux être reconnaissant à Dieu pour le témoignage de frère Blair. Il se trouve que frère et sœur Blair sont ici avec nous ce soir. Ce sont eux dont le petit garçon. Maintenant, souvenez-vous que le Seigneur m'a dit qu'il était, frère Blair était déchiré et dans son cœur elle pleurait. Son petit garçon avait eu le visage écrasé dans une voiture qui avait capoté. Il était très mal en point. Mais alors que je priais, je vis le petit garçon guéri. Et frère Blair, bien sûr, me demanda, « Frère Branham, est-ce ainsi dit le Seigneur ?» Je répondis, « Frère Blair, c'est ainsi dit le Seigneur. » Et frère Blair est ici ce soir, et nous sommes certainement reconnaissants d'avoir frère Blair au milieu de nous. Il souffrait un peu de nervosité, et Satan l'a secoué, ici il n'y a pas longtemps, pour essayer de le faire douter de moi. Et pendant que Satan faisait cela, le Seigneur vint et le lui révéla, simplement pour enlever cela, avant que vienne le moment pour ceci. Frère Blair est un brave homme, et je veux que vous vous souveniez de lui. Il est plus ou moins pris entre deux alternatives quant à ce qu'il doit faire. Il ne sait pas de quel côté aller, mais je crois, frère Blair, que Dieu, vous êtes un grand serviteur de Christ, et il a suffisamment de travail pour vous, parce que les lumières s'assombrissent. Êtes-vous ici ce matin? Bon, c'est très bien. Maintenant, je pense que la prochaine fois que je vous verrai, ce sera peut-être au printemps, et d'ici là, nous saurons peut-être si nous allons tenir les réunions ici, à Jeffersonville ou pas, pendant le temps où j'aurais dû être en Norvège et dans les pays scandinaves. Maintenant, juste avant que nous prenions un texte, parce que nous aurons une ligne de prière et que beaucoup sont debout tout autour, je sais que c'est très pénible pour vous. Je suis resté moi-même très souvent debout, et alors que je passais en voiture avec ma femme, il y a quelques instants, j'ai remarqué les gens près des portes et j'ai pensé, qui peut dire que l'Évangile n'est plus la chose la plus attrayante du monde? Ça l'est assurément. Il attire ceux qui y sont intéressés. Ceux qui ne sont pas intéressés, bien sûr, ce ne sera pas le cas pour eux. Mais Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Comme c'est vrai. Et quand j'arrive ici, il y a tellement à dire que je dois prendre des notes sur ce que je vais prononcer, sinon il y a tellement à dire que vous oubliez ce que vous vouliez dire. J'ai compris que le père de frère Angrin a été baptisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Si Sœur Anne Green et les autres sont ici, je suis sûr que c'est quelque chose d'important pour eux, car cela a été leur prière constante pendant de nombreuses années. Et Frère Anne Green, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse richement, mon frère. Et si ce n'est pas correct, Dieu m'en rendra responsable au jour du jugement. Je sais que c'est correct. J'en prends le blâme. C'est tout à fait juste, parce que c'est la vérité. Vous dites, cela fait-il une différence? Cela en fit une pour Paul. Il demanda comment ils avaient été baptisés, et répondirent qu'ils avaient déjà été baptisés par Jean, l'homme qui avait baptisé Jésus. Paul leur dit de venir et d'être rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Et pas une personne dans la Bible ne fut baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Personne ne fut baptisé comme cela jusqu'à ce qu'on organise l'Église catholique au Concile de Nicée, à Nicée, Rome. C'est là que la première personne fut baptisée selon les titres. Quelqu'un me dit l'autre jour, j'ai dit, si le Seigneur Jésus, c'est son nom. Il dit, eh bien, je dis, si quelqu'un vient vers vous, il dit, je ne pense pas que cela fasse une différence. J'ai alors pris à sa propre doctrine. Je dis, si un homme vient vers vous et vous dit, j'ai été baptisé dans le nom de la rose de Saron, du lys de la vallée, de l'étoile du matin, diriez-vous amen à cela? Il répondit, non, monsieur. Je dis, le rebaptiseriez-vous? Il dit, oui, monsieur. Je dis, comment le rebaptiseriez-vous? Il répondit, je le rebaptiserai au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et je dis, c'est ainsi que je le baptiserai, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais la rose de Saron, le lys de la vallée et l'étoile du matin ne sont pas un nom. Il dit, c'est vrai, c'est un titre. Je dis, c'est pareil pour Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, je les baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Et il le vit. C'était frère Joseph Matson Bosé de Chicago, l'homme le plus dur que j'ai eu à convaincre. Je pense que j'aurai environ 3 ou 4 000 indigènes à rebaptiser quand j'irai en Afrique. Ainsi, nous sommes reconnaissants pour la lumière de l'Évangile. Jésus a dit, quand il était ici sur la terre, ce que j'entends, je le dis. Et maintenant, je vais parler de cela pendant les 10 ou 15 prochaines minutes avant de prendre mon texte. Un texte très court, et ensuite nous aurons la ligne de prière. J'en suis arrivé à un point de mon ministère où je dois dire quelque chose. Jésus a dit que ce qu'il entendait, c'est ce qu'il disait. Et il ajouta, « Je vous ai appelé mes amis, et un ami dit tout à ses amis. » Paul a prononcé ces paroles dans Actes 20-27, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Et puis-je dire ce soir la même chose en m'associant à ce grand saint du passé, qu'au mieux de ma connaissance, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je crois que quelqu'un faisait passer l'une de ses bandes l'autre jour. Cela irrita quelqu'un qui leur tira dessus de la fenêtre. Une femme fut blessée. C'est ainsi, peut-être, qu'un jour, je scellerai mon témoignage. Mais quand ce moment viendra, je serai prêt à partir. Jusqu'à ce que mon temps arrive, rien ne pourra me nuire. Nous croyons le même évangile et la Bible telle qu'elle est écrite. Cela pointe vers un but. Et si l'arme est exactement pointée, est bien réglée, et qu'elle frappe la cible du premier coup, elle la frappera la deuxième fois les fois suivantes. Si d'un arbre ou d'un cep pousse un sarment et que ce sarment porte un certain fruit, la fois suivante, il portera la même espèce de fruit. Et si Jésus est le cep, et que nous soyons les sarments, le premier sarment ou église qui sort du cep, ils écrivirent ensuite un livre des actes. Ce premier serment baptisa au nom de Jésus-Christ. Ils avaient le Dieu vivant au milieu d'eux et il fit là les mêmes choses que celles qu'il fit lorsqu'il était sur la terre. C'est pourquoi les gens remarquèrent ceux qui avaient été avec Jésus, bien qu'ignorants et sans instruction, parce que sa vie était manifestée en eux. Comme je l'ai déjà dit, si j'avais l'esprit de Beethoven en moi, je composerais des chants. Si Beethoven habitait en moi, je serais Beethoven. Voyez-vous, si Shakespeare vivait en moi, je serais Shakespeare. J'écrirais des poèmes, des pièces, etc. Si Shakespeare vivait en moi, et si Christ vit en moi, je ferai les œuvres de Christ. Il doit en être ainsi. Et qui est Christ? La parole. Il a dit, si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Parce que la parole qui est là a simplement besoin de lumière, et la lumière lui donne la vie. Ainsi, maintenant, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas dite jusqu'ici. C'est la chose que nous avons attendue si longtemps, pendant toutes ces années, 4 ou 5 ans, ou peut-être plus. Le troisième poule a maintenant été confirmé, et je suis sûr que vous savez tout ce que c'est. Maintenant, souvenez-vous, il ne sera jamais imité, parce que cela n'est pas possible. Présentement, il existe, et j'ai été averti que bientôt, en ce moment, c'est arrivé afin qu'il puisse identifier sa présence parmi vous. Voyez-vous? Mais il ne sera pas utilisé puissamment avant que ce conseil commence à serrer la vis. Et quand cela arrivera, les pentecôtistes et les autres peuvent imiter presque tout ce qui est fait. Mais quand ce temps-là viendra, quand la pression viendra, alors vous verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance ce que vous avez vu temporairement. Maintenant, je dois continuer à évangéliser. C'est pour cela que j'ai été appelé premièrement et je dois continuer. C'est pourquoi vous avez eu la parole et vous savez ce qu'il faut attendre et quelle position avoir. Je dois continuer à évangéliser et mes amis, restez tranquilles et continuez à avancer, car l'heure approche rapidement où quelque chose va se produire. Vous verrez peut-être arriver de petites choses étranges, rien de scandaleux, non, mais je veux dire seulement quelque chose d'étrange en comparaison de la tendance habituelle. À cause de ce que j'ai atteint maintenant dans mon ministère, je me tiens en arrière, observant ce point et attendant le moment pour l'utiliser. Mais cela sera utilisé. Et chacun sait qu'aussi certainement que le premier fut identifié, de même le deuxième l'a été. Et si vous observez bien, vous qui êtes spirituel, comme la Bible dit que celui qui a de la sagesse, le troisième est correctement identifié. Nous savons ce que cela signifie. Ainsi le troisième poule est ici. C'est si sacré que je ne dois pas en parler beaucoup. Comme il me l'a dit au commencement, il a dit, ne dis rien au sujet de celui-ci. Vous en souvenez-vous, il y a des années, il parle pour lui-même. Mais vous, j'essaie de l'expliquer à d'autres et j'ai commis une faute. Ce sont la chose qui, à mon avis, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me l'a dit, je crois seulement que ce sera la chose qui engendrera la foi nécessaire pour l'enlèvement. Voyez-vous, quant à moi, je dois reposer quelque temps là-bas. Maintenant, souvenez-vous, et vous aussi qui écoutez cette bande, vous verrez peut-être tout à coup un changement dans mon ministère, un déclin, pas une ascension, mais un déclin. Nous sommes juste à l'âge maintenant, et cela ne peut pas aller plus loin. Nous devons attendre ici jusqu'à ce que tout cela soit arrivé jusqu'à nous. Alors, le temps sera là. Mais c'est déjà entièrement identifié. Le temps viendra dans ce pays où cette nation exercera toute la puissance que la bête avait auparavant, ce qui était la Rome païenne quand elle devint la Rome papale. Et cette nation fera cela. Apocalypse 13 l'indique clairement. L'agneau sortit de la terre, l'autre bête sortit de l'eau, ce qui représente des peuples et des foules. Cet agneau, lui, va d'un endroit où il n'y avait pas de gens. Un agneau représente une religion, l'agneau de Dieu. Et souvenez-vous qu'il parla comme un agneau, c'était un agneau. Et plus tard, il reçut la puissance. Parla comme un dragon, et exerça toute la puissance que le dragon avait avant lui. Or, le dragon représente toujours Rome. Ainsi, ne voyez-vous pas une dénomination romaine, une dénomination protestante avec une marque, une image de la bête, soit une puissance qui forcera tous les protestants à entrer dans une sorte d'union. Vous devrez être dans ce conseil des églises où vous ne pourrez pas fraterniser. C'est pratiquement ainsi maintenant. Vous ne pouvez pas aller prêcher dans une église si vous n'avez pas de carte de membre, ou une carte d'identité. Alors, à ce moment-là, les personnes comme nous seront complètement retranchées de cela. C'est exact, parce qu'ils ne pourront pas le faire. Cela se resserre, et quand ce temps viendra, et que la pression sera telle que vous serez oppressés, alors observez, je vais vous le dire dans quelques minutes, observez alors le troisième pool. Il sera entièrement pour ceux qui sont totalement perdus, mais en faveur de l'épouse, de l'Église. Maintenant, on en est plus près qu'on ne croit. Je ne sais pas quand, mais c'est très, très proche. Je construis peut-être une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Je serai peut-être repris avant ce moment-là, je ne sais pas. Peut-être est-ce la semaine prochaine que le Saint-Esprit viendra et ramènera Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut encore venir ce soir, je ne sais pas quand il viendra. Il ne le dit pas, mais je crois que nous sommes si près que je ne mourrai pas à un âge avancé. Bien que j'aie 54 ans, je ne mourrai sûrement pas de vieillesse avant sa venue. À moins que je sois tué d'une façon ou d'une autre, la vieillesse ne me tuera pas avant sa venue. Et je crois que, je veux dire ceci, je ne l'ai jamais dit auparavant, mais selon l'Écriture, selon ce qu'il a dit, il y a 30 ans, il y a 33 ans là-bas sur la rivière, en 1933 plutôt, ce qu'il a dit, tout est arrivé exactement. Je ne le ferai peut-être pas, mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer et préparer la première venue, le message doit annoncer et préparer sa seconde venue. Et Jean a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ainsi, cela lui était comparable en toutes choses, et je sais qu'il le sera. Ce message continuera. De grandes choses sont arrivées tout au long du chemin. Ce matin, j'ai eu des entretiens personnels ici, dans la pièce à côté, et un jeune homme du nom d'Autry, il est probablement encore ici ce soir. Il est de San Antonio, au Texas. Il est venu à demander si, lorsque nous irions à Dallas, en venant de Californie, nous pourrions nous arrêter un soir au tabernacle, seulement pour une soirée. On va voir d'ici demain ou après-demain si nous pouvons le faire. Et il m'a dit de... Je n'étais jamais retourné à San Antonio depuis cette première réunion. Lors de cette première réunion, lors de mon passage à San Antonio, j'étais là, je crois, avec Frère Cotts et l'École biblique internationale. Mais j'ai oublié dans quel auditorium nous avons eu la réunion. C'était lors de ma première réunion ou de ma deuxième soirée. Je pense que c'est la première soirée. Alors que je gagnais l'estrade, quelqu'un se leva dans le bâtiment tout au fond et se mit à parler en langue, comme une mitrailleuse. Et il ne s'était pas assis que quelqu'un d'autre se leva sur l'estrade et en donna l'interprétation. Je m'arrêtai pour écouter. Puis je demandai à cet homme-là, « Connaissez-vous cet homme ?» Il répondit, « Non, monsieur. » Je dis, « Comment êtes-vous venu ici ?» Il répondit, « Les gens pour lesquels je travaille venaient ici ce soir et m'ont amené avec eux. » C'était un cow-boy. Et je demandai, « Que faites-vous ? Le connaissez-vous ? » Il répondit, « Non, monsieur, je ne l'ai jamais vu. » Je dis à l'autre, « Que faites-vous ? » Et c'était un commerçant de la ville. Et ce qu'ils dirent dans le... Maintenant, j'ai toujours... Avant d'en savoir davantage, je restais sceptique au sujet du parler en langue. Je pensais qu'il y avait là beaucoup de charnel, et c'est peut-être le cas. Mais quand ceci fut prononcé, cette interprétation correspondait exactement à ce que l'ange du Seigneur avait dit sur la rivière, 11 ans auparavant. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer et préparer la première venue de Christ, tu es envoyé pour annoncer et préparer sa deuxième venue. C'était cela. Quand cet ange, cette lumière, cela a été parfaitement identifié, à la fois par l'Église, la parole et la science. Tout l'a identifié, cette lumière, quand elle l'a apparue pour la première fois en public, ce teint au-dessus de l'endroit où j'étais, vers 2 heures de l'après-midi, au pied du pont, juste ici, au bas de la rue Spring, dans l'eau. Maintenant, il y a de cela de nombreuses années, et ce qu'il a dit est arrivé à la lettre.
Amen.
Ce frère ici me disait ce matin qu'il avait épousé une jeune fille de l'Église, la fille de sœur Noyd. Et je ne sais pas, mais je pense que le jeune homme... Êtes-vous ici, frère Autry? Je ne sais pas. Il est de San Antonio. Je ne sais pas s'il est ici ou non. Il était ici ce matin. Et il me disait, je crois que c'était son grand-père qui fut conduit à cette réunion, ayant été un épileptique toute sa vie. C'était au commencement du ministère, quand il dit que si le discernement était de mettre leurs mains sur la mienne, et ce qu'il dit serait dit... Ce qui serait dit correspondrait à la réalité. Et je vous ai dit, et beaucoup sont témoins ce soir, que le jour viendrait où je connaîtrai les secrets des cœurs. Vous vous souvenez de cela? Avant même que cela n'arrive, environ 5 ou 6 ans plus tard, cela se produisit au Canada pour la première fois. Et cela arriva. Puis il dit, si tu continues à être sincère, ça continuera ainsi. Et maintenant, la troisième chose est arrivée. Avançons ainsi constamment.
Amen.
Et il raconta que son père fut conduit dans la ligne de prière et que je lui dis qu'il était atteint d'épilepsie. On pria pour lui, cela fait 16 ans. Je pense que ça remonte à environ 16 ou 17 ans. Et il m'a dit qu'il n'avait plus jamais eu de crise depuis ce moment-là, et il a près de 85 ans. Il n'a jamais eu de crise depuis. Qu'est-ce? Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Margie Morgan est-elle dans le bâtiment? Sœur Margie Morgan, une dame qui était dévorée par le cancer, une infirmière. Combien se souviennent de Sœur Morgan? Si elle est ici, elle ne peut probablement pas entrer. Elle donnait des soins, vous voyez, sur la liste des cancéreux de Louisville. Cette femme était censée être morte depuis 16 ou 17 ans. Sur la liste des cancéreux de Louisville. Quand Jim Tom Robinson l'avouait, un avocat chrétien, on entendit parler d'aller à l'hôpital Baptiste pour vérifier si c'était vrai, parce que son père faisait partie du conseil d'administration. Il était administrateur à l'hôpital Baptiste. Ils examinèrent le cas et la femme était censée être morte depuis des années. Maintenant, elle donne des soins ici, à Jeffersonville, dans un hôpital. Quand elle s'est trouvée ici même, on dut la soutenir, car elle était par Saint-Esprit. Mais ce fut ainsi dit le Seigneur, elle vit. Elle alla travailler comme infirmière à Louisville. Et un homme qui habite près d'ici, la confiserie Schimpf. Monsieur Schimpf, est-il ici ce soir? J'aimerais que ce soit lui qui signale sa présence, s'il est ici. Sonny Schimpf, un homme de haute stature, en bonne santé. Souvent, j'avais l'habitude de... Je ne tiens pas à dire ceci, mais c'est la vérité. Papa me donnait 10 cents si j'avais bien travaillé toute la semaine. Et je les envie. Je laissais ma bicyclette chez frère Mike Hagen, l'un des administrateurs ici. Avec Jimmy Poole, je pense que son fils est ici ce soir, Jim, Ernest Fisher et moi, nous allions voir un film pour 5 cents. Nous allions voir les vieux films muets. Nous étions des enfants d'environ 8 à 10 ans. On avait ce vieux William Hurt, probablement beaucoup d'entre vous ne se souviennent pas de lui, de ce vieil acteur de cinéma muet. Étant donné que je ne pouvais pas lire, je ne pouvais que regarder ce qui passait. Et comme je devais tout épeler et que je n'y arrivais pas, j'observais simplement ce qu'il faisait. Après cela, il me reste encore 5 cents. Combien se souviennent d'avoir acheté une glace pour 1 cent? Bon, je pouvais encore ainsi acheter 3 glaces et pour 2 cents de bonbons forts à la cannelle. Je ne pouvais pas tenir les glaces, alors je les mangeais sur place. Puis j'achetais pour 2 cents de bonbons forts à la cannelle. Et cela m'en faisait presque une demi-livre. On les faisait chez Schimpf. J'allais là-bas, je m'asseyais et regardais William Hurt à l'écran. Et ce jeune homme, un peu plus âgé que moi, fut frappé d'une maladie pour laquelle 5 éminents spécialistes de Louisville l'examinèrent. Il pesait environ 20 kilos et se mourait. Mademoiselle Morgan le soignait. Il était dans un tel état. Tant de choses n'allaient pas. Ses poumons étaient atteints, sa gorge était atteinte, ses bras maigris étaient à peu près gros comme cela. Il était couché là, à la mort. Et Mademoiselle Morgan fut appelée à s'occuper de lui. Ainsi elle lui dit, « J'ai été une fois malade du cancer. » Elle commença à lui raconter. Elle répondit, « Qui êtes-vous? Billy Branham? Mais je lui ai vendu une quantité de bonbons forts à la cannelle et des glaces. Je me demande s'il viendrait prier pour moi. » Et je suis allé prier pour Johnny Schimpf. Et maintenant, si vous voulez lui parler, c'est la confiserie Schimpf, juste à côté, près du théâtre de Léo, au bas de la rue. La confiserie Schimpf. Vous tous ici savez où cela se trouve. Oh, c'est l'un des établissements les plus anciens à Jeffersonville. Et alors qu'il était là, couché à la mort, que 5 spécialistes ne lui en donnaient plus que pour quelques heures, ce fut ainsi dit le Seigneur, « Tu ne mourras pas, mais tu me vendras de nouveau des bonbons forts à la cannelle par-dessus le comptoir. » J'ai su qu'il avait été guéri, mais il y avait longtemps que je l'avais oublié. Ma femme et moi étions partis acheter des bonbons une fois que nous étions ici à Noël, et je ne sais pas comment. Nous avons pensé à la confiserie Schimpf, parce qu'habituellement nous allons dans un de ces grands magasins. Mais cette fois, nous nous sommes arrêtés devant la confiserie Schimpf. Quand j'entrais, sa sœur me regardait et dit, « Eh bien, frère Branham !» Puis elle ajouta, « Vous souvenez-vous de Juni ?» Je répondis, « Oui. » Elle était un grand et bel homme en bonne santé. Et je m'avançais vers le comptoir. Je regardais en gardant la tête baissée, comme ceci, et je dis, « Je prendrai une livre de ces bonbons forts à la cannelle. » Elle répondit, « Oui, monsieur. » Sa sœur servait ma femme. Il les prit et je dis, « J'avais coutume de les manger il y a longtemps, ici en regardant le film. » Je gardais la tête baissée. Elle dit, « Oui, beaucoup d'enfants en achètent. Ils en achètent toujours. Mon père les faisait. Il les préparait pour eux. Je dis, je les aime vraiment. Après qu'il les eut préparés, il me les tendit en disant, y a-t-il quelque chose d'autre? Et je dis, je ne sais pas. Et je me redressais. Oh là 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 là. Il dit, frère Branham. Je dis, voici les bonbons forts à la cannelle dont je vous avais dit, ainsi dit le Seigneur, il y a environ 5 ans.
Amen.
Il dit, frère Branham, je suis si parfaitement guéri qu'il n'en reste même plus de traces.
Amen.
Je suis un peu dur d'une oreille, je pense qu'il est dans la cinquantaine. Il dit, je suis un peu dur d'une oreille parce qu'on m'a donné tellement d'antibiotiques quand j'étais là-bas. Étonnante grâce de Jésus-Christ.
Amen.
Je n'ai pas beaucoup de temps maintenant pour dire quelque chose d'autre, mais je veux faire cette déclaration. Combien se souviennent des écureuils? Très bien. C'était un passage de l'Écriture qui me déroutait, et je n'avais jamais pu comprendre. Et il y en avait un autre qui m'intriguait. C'était quand Moïse avait pu indiquer à Dieu une meilleure manière de faire que celle à laquelle il avait pensé. Quand Moïse dit, « Les gens diront, votre Dieu a pu vous faire sortir, mais il n'est pas capable de vous garder. » Et Moïse se jeta dans la brèche, et plus tard je découvris que Moïse, que c'était Christ dans Moïse qui prenait position pour les gens. Ainsi, pour ce qui est de ce passage de l'Écriture, je ne voulais jamais prêcher là-dessus. Si vous dites à cette montagne, au toit de là, vous connaissez tous l'histoire. C'est pourquoi je laisserai de côté. Combien j'étais peu au courant de la chose à laquelle cela conduirait. Et je pense que frère Wood, frère Fred et les autres sont ici dans le bâtiment. Ils étaient présents que cela arriva, ou peut-être sont-ils ici, sont-ils arrivés là-bas juste après. Frère Rodney, frère Charlie du Kentucky, le frère de Sir Wood, et les autres étaient présents que cela arriva au Kentucky. C'était la deuxième fois que cela arrivait, simplement créé par la parole des choses qui n'existaient pas, venant ainsi confirmer les Écritures en signe d'encouragement. La troisième fois que cela arriva, c'était en faveur de Hattie Wright. Hattie, est-elle ici ce soir? C'est la sœur d'Edith. Combien connaissent Hattie Wright? Frère Wood et moi étions assis là-bas quand cela arriva. Que le Saint-Esprit dit, donne-lui ce qu'elle désire. Nous parlions de ces écureuils qui avaient été créés. Et je dis, la seule chose que cela montre, c'est qu'il est Jéhovah Jireh. Quand Abraham a eu besoin d'un bélier, Dieu y pourvu. Et il pourvu aux écureuils. Il a pu créer par sa parole un écureuil parce qu'il est le créateur, de même qu'il peut créer le bélier. Abraham n'en demanda jamais un. Il allait simplement exécuter cela, mais cela montre que Jéhovah Jireh était là. Quand j'ai prononcé ces paroles, une humble petite femme, c'est la première fois que cela arrivait à un être humain, le troisième poule. Et ce fut à une humble et petite femme qui vit avec $200 environ par année. C'est tout ce qu'elle tire de sa petite ferme. Son mari est mort, elle avait 2 enfants qui étaient devenus un peu indisciplinés. Un jour, elle est venue et a fait don de $20 sur ce qu'elle possédait pour la construction de ce tabernacle. Mesdames avaient donné de l'argent ce matin-là pour des commissions, $20, et je désirais rendre cet argent, ce jour-là, à l'occasion de ma visite. Mais elle ne voulut jamais l'accepter, et quand elle était assise dans le coin et que j'ai dit, « Tout ce que je sais, c'est qu'il est toujours Jéhovah Jireh », à ce moment-là, Hattie prononça le mot juste. Elle dit simplement, « Ce n'est rien d'autre que la vérité ». Et quand elle lui dit cela, frère Bankswood ici, est une des personnes qui étaient présentes, on aurait dit que la pièce allait s'écrouler. Et le Saint-Esprit, la même voix qui avait parlé des écureuils, dit, « Donne-lui ce qu'elle demandera. » Je dis, « Sœur Hattie, comme témoin devant Dieu, c'est cela. Si vous voulez encore l'éprouver, demandez ce que vous voulez, et si cela ne se trouve pas devant vous, alors je suis un faux prophète. » Elle dit, « Frère Branham, tout le monde pleurait. « Que demanderais-je ? » Je dis, « Vous êtes pauvre et vous vivez là, sur la colline, sans argent. Vous pourriez demander cela. » Vous avez ici une sœur infirme, Edith, pour laquelle nous avons prié pendant des années. Vous pourriez demander sa guérison. Votre père et votre mère sont âgés et affaiblis. Vous pourriez demander quelque chose pour eux. Quoi que vous demandiez, sœur Hattie, regardez. Si cela arrive, oui ou non, à l'instant même. Et j'ajoutais, il vient de me dire, la même voix, donne-lui ce qu'elle demandera. Elle regarda autour d'elle et dit, que demanderai-je, frère Branham? Je dis, dites ce que vous désirez, pensez à votre plus grand désir et dites-le. Et ses garçons ricanaient. Elle dit, le plus grand désir que j'ai, c'est le salut de mes 2 fils. Je dis, je vous les donne au nom de Jésus-Christ. Et ils furent touchés. Et depuis ce moment-là, ces jeunes garçons ont participé fidèlement à la communion dans cette église, ainsi qu'au lavage des pieds avec les hommes. Nous en sommes tous témoins. Elle fit un réel choix. Sa mère doit mourir de même qu'elle que tous, mais ce qu'elle a demandé sera éternel, le salut de ses enfants. C'est la troisième fois que cela s'est produit. La quatrième fois que cela est arrivé, je l'ai expliqué la dernière fois que j'étais ici. C'était sur la montagne où cet orage faisait rage. Combien ont-ils entendu? Là où l'orage faisait rage. Et Dieu est mon juge. Je redescendais de la montagne et David Wood, je pense qu'il est ici quelque part, m'avait fait un sandwich. Ce était un vrai de vrai. Je pense qu'il voulait me rendre l'appareil pour celui que j'avais fait à son père il y a quelques années. Il avait mélangé de la charcuterie, de la viande, et comme je l'avais mis dans ma chemise et qu'il pleuvait, il devint comme une grosse boule de pâte. Je me mis à descendre de la montagne. Il faisait si mauvais temps que je ne pouvais presque pas voir ma main devant moi. Et je sais une chose, c'est que vous êtes désorienté que le vent tourbillonne. Maintenant, il y a des témoins de cela. L'un d'eux est l'un de nos fidèles diacres, frère Willier. Êtes-vous ici, frère Willier? Où est-il? Le voilà, frère Willier. Frère Mann, un prédicateur méthodiste de New Albany. Frère Mann est-il ici ce soir? Je ne sais pas si oui ou non. Il est ici. Frère Bankswood, êtes-vous ici, frère Bankswood? Il est dans le local d'enregistrement. Très bien. Et David Wood et frère Evans étaient là, je crois. Est-ce juste frère Evans? Frère Evans, qui est debout contre le mur, y était. On avait annoncé 2 jours auparavant qu'un puissant blizzard était en train de balayer le pays. Frère Tom Simpson est ici ce soir. Alors qu'il venait du Canada, on lui demanda d'éviter cette région, parce qu'il ne pourrait la traverser. Le blizzard s'approchait. Frère Tom, êtes-vous ici? Où êtes-vous? Le voici. Les nuages arrivèrent et je dis, frère, tout le monde se dépêcha de quitter cet endroit. Et sur la centaine d'hommes qui s'y trouvaient, il ne resta personne si ce n'est notre petit groupe et le cow-boy de cavalier. Nous décidâmes de rester là. Je téléphonais à Sir Evans et lui demandai d'appeler ma femme pour lui dire d'avertir Tony que si je n'arrivais pas, il prenne quelqu'un d'autre pour présider le déjeuner des hommes d'affaires. Et sur la montagne, ce jour-là, je dis, maintenant, quand les premières gouttes de pluie commenceront à tomber, retournez au camp, car dans les 10 ou 15 minutes qui suivront, vous ne pourrez pas voir votre main devant vous dans ce blizzard. Elle tombera en peu de temps 7 mètres de neige sur la montagne. C'est ainsi que des gens que vous pouvez lire dans le journal ce qui est arrivé à d'autres dans cette situation. Ils périrent. Mais nous savions comment nous en sortir, et ils savaient où nous étions. Ainsi, nous nous sentîmes conduits à rester. Ainsi, sur la montagne, quand ce blizzard commença, je me mis à redescendre, et j'étais environ 800 mètres de là, quand la voix de Dieu dit, « Fais demi-tour et retourne. » Je fis demi-tour comme il me le demandait. Après avoir attendu quelques instants et mangé le sandwich que David m'avait donné, je remontai là-haut et m'assis. Pendant que j'étais là, le vent tournoyait, soufflait au sommet des arbres, les faisant plier. Du grésil et de la neige volaient partout. C'est alors qu'une voix me dit, « Je suis le Dieu de la création. » Je levai les yeux et pensais, « D'où cela est-il venu ? » C'était peut-être le vent. Il dit, « J'ai créé les cieux et la terre. J'ai apaisé les vents, puissants sur les mers. » Et il continua à parler. Je me levai d'un bond et enlevai mon chapeau. Il dit, « Parle simplement à l'orage, elle cessera. Quoi que tu dises, c'est ce qui arrivera. » Et je dis, « Orage, arrête-toi, et toi, soleil, brille normalement pendant 4 jours, jusqu'à ce que nous soyons partis d'ici. » Je n'avais pas fini de prononcer ces paroles que le grésil, la neige et tout le reste cessèrent de tomber, et en quelques instants, le soleil chaud brilla dans mon dos. Je vis les vents souffler comme ceci, revenant du nord et descendant, je veux dire venant de l'est, alors que ceci venait de l'ouest. Les vents changèrent et revinrent de ce côté, et les nuages, comme une chose mystique, s'élevèrent dans l'air, et le soleil se mit à briller en l'espace de quelques minutes. Puis un peu plus tard, le Seigneur Jésus me parla au sujet de ma femme, comme vous le savez. Vers l'endroit où j'étais monté là-bas, je n'ai encore jamais été à la maison pour un anniversaire. Nous sommes mariés depuis 22 ans. Lors de notre premier anniversaire, le premier, notre mariage, je l'ai emmené dans une tournée de chasse, parce que je n'avais pas les moyens de faire à la fois une tournée de chasse et de partir pour une lune de miel. Ainsi, j'ai fait en quelque sorte d'une pierre 2 coups. Depuis ce moment-là, je suis parti à la chasse. J'ai senti, c'est ainsi que j'ai agi envers elle. C'est la 4e fois que cela est arrivé. Maintenant, voici ce que je voudrais dire. Je dois dire exactement la vérité. Il y a environ 16 ans, j'étais en Californie, avec frère John Charite, là où je devais tenir une réunion. Et Meda et moi, frère et sœur Charite et les autres logions dans un hôtel, et un homme du nom de Paul Maliki, qui est souvent venu dans ce tabernacle, c'est un Arménien fortuné, et sa femme, avait donné naissance à un enfant à Fresno, en Californie, où ils habitaient. Il vint avec sa femme et m'appela à l'hôtel. Puis-je faire monter mon épouse, frère Branham? Je répondis, oui, vous le pouvez. Le jour suivant, j'allais à Catalina. Ainsi, il fait monter sa femme. Cette femme était si malade. Je dis, mettez votre main sur la mienne, sœur Maliki, et nous verrons si le Seigneur veut nous parler. Et aussitôt qu'elle posa sa main sur la mienne, je dis, oh, c'est une phlébite. Elle dit, il ne me semble pas que j'en ai les symptômes. Je dis, surveillez cela. Au bout de 2 jours, on diagnostiqua chez elle une phlébite. De même, Jimmy Poole vint l'autre jour avec son petit bébé qui avait eu, pensait-il, une crise cardiaque, alors que c'était une crise d'asthme. Je posais ma main sur lui, je dis, surveillez-le, donc, surveillez-le quelques jours. Il a la rougeole, elle va sortir, c'est la fièvre. Je l'ai rencontré hier soir, il m'a dit, il est maintenant couvert de rougeole. Je parlais encore à sœur Maliki de sa main. Elle dit, c'est surprenant d'observer cela, frère Branham, cela marche-t-il avec chaque main? Je dis, bien sûr, si quelque chose ne va pas chez le patient. Par exemple, je posais ma main dessus. Beaucoup de vous l'observèrent, et rien n'arriva. Regardez ici maintenant, tout va bien chez ma femme. Chérie, mets ta main sur la mienne. Ma femme était assise là, elle posa sa main sur la mienne, et aussitôt je dis, tu as un kyste sur l'ovaire gauche. Tu as une maladie de femme. Elle dit, je ne me sens pas autrement qu'avant. Je dis, mais tu en as un. Becky avait 2 ans, ma fille, qui vient de jouer il y a quelques instants, avait 2 ans. 2 ans plus tard, Sarah vint au monde. Elle vint par césarienne, et je demandais au docteur Billman, notre docteur à Gordon, de « Quand vous aurez ouvert, regardez cet ovaire gauche. » Il le fit, puis il dit « Je n'ai rien vu d'anormal. » Je posais ma main, c'était toujours là. 4 ans plus tard, Joseph arriva. Je lui demandais de regarder de nouveau. « Je n'ai rien vu d'anormal. » Je posais ma main, c'était toujours là. Ainsi, nous ne nous sommes pas plus occupés. Maintenant, il faut que je dise ceci. Je n'aime pas le dire, mais cela doit apporter la vérité. Voyez-vous, et c'est ce que vous voulez, dites toujours la vérité, peu importe ce qui arrive. Des années passèrent sans que jamais nous ne remarquions quelque chose. Et je dis ceci, pas parce qu'elle est assise là, car je le dis quand elle n'est pas là, vous le savez. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une meilleure épouse au monde que la mienne, et j'espère qu'elle restera toujours ainsi. Et je veux être un mari fidèle, et j'espère que chaque jeune homme dans ce bâtiment, quand il se mariera, aura une épouse comme la mienne. Je ne sais pas jusqu'à quand nous vivrons ainsi, mais j'espère le reste de nos jours sur la terre. Nous avons été très heureux ensemble. C'est Dieu qui me dit de l'épouser. Au moment même, elle ne le savait pas, ou j'essayais de ne pas l'épouser. Non parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je ne pensais pas pouvoir lui donner de quoi vivre, et qu'elle était brave. Je ne méritais pas cela. Elle se mit à prier et ouvrit la Bible. Elle dit, « Seigneur, je n'ai jamais fait ceci auparavant, mais donne-moi un passage de l'Écriture qui m'aidera. Si je dois l'oublier, je le ferai. » Elle ouvrit la Bible, elle alla dans une petite cabane et pria, et quand elle ouvrit la Bible, elle reçut Malachie 4. « Voici, je vous enverrai, lit le prophète. » C'était il y a environ 20 ans, alors qu'elle ne savait rien du ministère de ce jour. Et j'étais couché là-bas, au bord de la rivière, lorsqu'une nuit, il me réveilla, je l'entendis là, près de la porte, il dit, « Va l'apprendre, ton mariage aura lieu le 23 octobre prochain. » C'est exactement ce que j'ai fait. Nous avons vécu heureux, par la grâce de Dieu, nous n'avons jamais eu une parole, elle était un amour. Un jour, je suis rentré, elle devait élever les enfants toute seule, étant donné que j'étais au loin pour remplir mon ministère. Pas beaucoup de femmes accepteraient cela. Vous savez que ce serait assez difficile. Je suis entré et elle a dit quelque chose. Nous avons là Joseph et c'est assurément un garçon. Il a contribué à donner des cheveux gris à sa mère, tout comme moi. Ainsi, c'était un vrai garçon. Il avait fait quelque chose de vraiment mal. Elle me dit, « Billy, donne-lui une bonne correction. » Je répondis, « Je n'en ai pas le courage. » Elle dit, « Eh bien, si tu devais le supporter. » Elle me claque à la porte au nez. « Eh bien, je pensais que ce n'était pas grave. Le pauvre petit n'a pas fait exprès. » Et je sortis pour aller laver ma voiture. Quand je fus dehors, je réalisais que le Saint-Esprit n'avait pas aimé cela. Il dit, « Va lui dire. » Je crois que c'est 2 Chroniques, chapitre 22. Je pensais premièrement que je n'avais fait qu'imaginer cela, et je continuais à laver. Et il dit de nouveau, « Va lui dire de lire ceci. » J'entrai donc, pris la Bible et lu. C'est là qu'il était parlé de Marie, la prophétesse, qui s'était moquée de son frère Moïse pour avoir épousé une fille éthiopienne. Et Dieu n'aima pas cela. Il dit,
Ça aurait été mieux pour elle que son père lui crache au visage, plutôt qu'elle ait fait cela. Ainsi, Marie fut entièrement couverte de lèpre. Aaron vint vers son frère et lui dit, « Elle est en train de mourir de la lèpre. » Ainsi, Moïse rentra précipitamment pour intercéder en sa faveur à l'autel. Et à ce moment-là, la colonne de feu descendit. Dieu, il dit, « Va, appelle-la, de même qu'Aaron, et conduis-les ici. » Aaron était aussi impliqué là-dedans. C'est pourquoi il dit, « Dis-leur de venir ici. » Il dit, « S'ils se trouvent parmi vous, c'est maintenant Dieu qui leur parle. Quelqu'un de spirituel ou d'un prophète, moi, l'Éternel, je me révélerai à lui par des songes, etc. » Mais mon serviteur Moïse, il n'y en a point comme lui dans le pays. Je lui parle de bouche à oreille. N'avez-vous pas craint Dieu? Voyez-vous, Dieu n'aima pas cela. Quand je vis cela, je rentre en courant. Elle était dans l'autre pièce. Je frappe à la porte. Elle s'est enfermée. Et je lui dis que je voulais lui parler. J'entrais et lui parlais, essayant de lui dire ce que c'était. Je dis, « Chérie, tu sais combien je t'aime, mais Dieu n'a pas aimé cela. Tu n'aurais pas dû le dire. » Immédiatement après cela, elle se mit à souffrir dans un côté. Nous la conduisîmes chez le médecin ici à Louisville, docteur Arthur Schoen, et elle trouva la tumeur sur l'ovaire gauche que j'avais découverte 15 ou 16 ans auparavant. Une tumeur sur l'ovaire gauche, environ de la grosseur d'une noix. Je demandai, « Qu'en est-il, docteur ?» Il répondit, « Voyons ce qui va arriver. Ramenez-la dans quelques mois, environ 2 mois. » Nous lui reconduisîmes. Elle avait passé de la grosseur d'une noix à celle d'un citron. Il dit, « C'est mieux de l'enlever. Elle s'attendira et deviendra maligne. » Je dis, « Eh bien, ma foi, nous allons à Tucson. Le Seigneur m'a envoyé à Tucson. » Il envoya chez un gynécologue. Il ne voulait plus prendre la responsabilité de son cas. Il doit lui avoir parlé de mon ministère, parce que le gynécologue dit, « Il faudra l'enlever. » Nous lui avons dit que nous allions à Tucson. Alors qu'il répondit, « Eh bien, j'ai là-bas un spécialiste, un de mes chers amis. Il avait vécu auparavant à Tucson. Il dit, « Je vais vous envoyer chez lui. » Ainsi, il écrivit un message et le lui envoya en disant, « Madame Branham est une gentille dame. » Et ainsi de suite. Il lui envoya le diagramme de la tumeur. C'était alors devenu une tumeur en lui disant qu'elle était sa grosseur. Il dit, « Je sais, je pense qu'il m'a appelé un guérisseur divin. C'est tout ce qu'il sut mettre. » Mais je dis, « J'ai donné mon accord pour que, s'il fallait l'enlever, vous le fassiez. » Mais c'était un test pour notre foi. Nous avons prié sans interruption, et plus nous prions, plus la tumeur grossissait, jusqu'à ce que cela forme une boule sur son côté. Nous avons tué la chose, seules quelques personnes ici le savaient, attendant de voir ce qui arriverait. Et cela continua ainsi. Finalement, revenant du Canada, où le Seigneur m'avait donné de conduire cette tribu d'Indiens Christ, je vais retourner pour les baptiser au nom du Seigneur Jésus le printemps prochain, Dieu voulant. C'était le moment pour elle d'aller. J'étais à New York, aussi, afin de subir une autre opération, d'être opéré ou d'être examiné pour la dernière fois. J'allais à New York et en revenant, je m'arrêtais ici et je montais. Après la réunion ici, la dernière réunion, je montais et j'appelais de chez Frère Wood. Elle dit, « Bill, je ne peux même plus supporter le poids de mes habits. » À ce moment-là, cela sortait comme ceci de son côté. Et sa jambe de ce côté-là, elle devait avancer en clopinant. C'était la plus mauvaise semaine qu'il ait jamais eue. Elle était là qui m'écoutait, la plus mauvaise semaine qu'il ait jamais eue. Elle dit, « Je dois aller, après-demain, subir cet examen. » Je pensais, « Oh Dieu, si on ouvre et qu'on l'enlève, cela nous empêchera d'aller à la maison à Noël. » Et j'ai déjà dit aux gens que j'y serais. Je dis, « Quel moment, oh là là !» Je pensais, « Dis-lui que s'il doit opérer, qu'il attende encore quelque temps jusqu'après Noël. » Puis je me mis à réfléchir, « C'est peut-être d'origine maligne, et dans cette région ici, vous savez, c'est peut-être mauvais. » Cela va jusque dans les reins, et c'est l'origine. Si c'est d'origine maligne, cela peut vous tuer. Ainsi je pensais, que puis-je faire? Et mes daddy, eh bien, retéléphone-moi. Le jour où j'arrivais à Shreveport, c'était le lendemain. Le jour où j'arrivais à Shreveport, elle devait aller pour son examen. Ainsi, elle a lâché le, Madame Norman est allée, Sœur Norman, vous la connaissez tous, vous qui venez au tabernacle. Elle devait aller chez elle, avec elle chez le spécialiste. Ainsi elle dit, attends jusqu'à ce que tu aies eu ta première réunion et ensuite reviens, parce qu'il y a une différence de 2 heures. Appelle-moi, quand tu seras revenu de cette réunion, je te dirai ce que je dois faire. Et je dis, très bien. Puis, le matin suivant, avant de partir, je voulais aller prendre Billy et Lois, ils sont les deux présents, et toujours, nous avons un vieux divan là-bas que frère Palmer a recouvert pour nous, il n'y a pas longtemps. Et nous nous mettons toujours autour de ce divan pour prier quand nous, oh, c'est un ottoman, comme vous savez, un divan. Nous nous mettons là autour et nous prions avant de partir pour une réunion, pour demander à Dieu de nous aider. J'étais là depuis 2 jours et je me sentais seul. La maison, les enfants n'étaient pas là. Elles n'étaient pas là. Vous savez, beaucoup d'entre vous savent que j'ai dû traverser cela une fois, retourner dans une maison vide. Seulement, j'ai enseveli cette épouse-là, Hope. Et tout à nouveau, quand je me suis agenouillé, je pensais, eh bien, je vais prier ensuite, j'irai chercher Billy et Lois pour partir. Ainsi, je m'agenouillais pour prier, je dis, Seigneur, il me manque ici ce matin. Je te prie de les bénir et de les aider. Puissions-nous revenir en ce lieu? Et maintenant, ils sont là-bas parce que tu m'y as envoyé dans une vision et que tu l'as accompli. Et maintenant, je vais attendre pour voir ce que tu vas me dire de faire ensuite. Je te prie d'être miséricordieux envers elle. Aide-moi dans la réunion là-bas. Et Seigneur, ne permets pas que cela soit malin. Fais que ce docteur attende jusqu'au premier de l'an pour l'enlever. Je n'aime pas du tout la voir. Seigneur, elle ne l'a pas fait intentionnellement ce matin-là. Elle l'a fait sans le vouloir. Seigneur, elle n'a pas une seule fois prononcé un mot que je partais tenir des réunions et que j'étais absent pendant des mois. Elle n'a pas ouvert la bouche une seule fois à ce sujet. Elle a toujours envoyé mes habits au nettoyage, lavé mes chemises et tout préparé pour mon départ, pour aller tenir des réunions. Et pourtant, elle se demande encore comment elle peut servir Dieu. Vous, femmes, en servant votre mari, vous servez Dieu, bien sûr. Et alors, quand je rentrais très fatigué, épuisé, que les gens venaient de partout, j'avais besoin de partir quelque part, faire une partie de pêche ou une tournée de chasse. Oh, beaucoup de femmes auraient éclaté à cause de cela. Mais que faisaient-elles? Elles préparaient mes habits de chasse pour que je puisse partir et me laissaient partir. Je dis, Seigneur, elle ne l'a pas fait exprès. Elle a dû passer 3 fois par le bistouri pour des césariennes. Et Seigneur, je n'ai pas du tout envie de la voir recommencer. À ce moment-là, j'entendis quelque chose dans la pièce. Je levai les yeux et le voix dit, lève-toi, maintenant quoi que tu dises, il en sera ainsi. J'attendis une minute et je dis, avant que la main du docteur ne la touche, la main de Dieu enlèvera la tumeur et ne pourra plus être retrouvée. Pour moi, ce fut une affaire réglée. Je ne lui ai jamais retéléphoné. Nous nous mîmes en route sans autre. J'allais chercher Billy et Lois et nous partîmes pour Shreveport. Le lendemain soir, je lui téléphonais. Elle était heureuse. Elle dit, Bill, je veux te dire. Maintenant, elle est ici et elle peut le confirmer. Elle dut y aller en clopinant. Elle entra dans la pièce avec l'infirmière et Madame Norman. Elle enfila la robe pour l'examen. Le docteur sortit et elle put à peine monter sur la table, car la tumeur faisait une telle protubérance. Et quand elle, le docteur entra et lui parla. Puis il s'approcha pour lever le drap et la toucher. Et juste avant qu'il ne la touche, elle disparut. Amen. Au point que le docteur ne savait plus de quel côté elle était. Il dit, attendez une minute. Malgré le dessin représenté sur les diagrammes, les photographies et tout le reste, il ne put en retrouver la trace. Il l'examina plusieurs reprises, puis il dit, « Je ne serais peut-être pas capable de l'expliquer, mais Madame Branham, cette tumeur n'est plus là. » Et depuis, elle n'a plus jamais eu de symptômes. Qu'était-ce? Remarquez, ce fut exactement comme cela avait été dit, avant que la main du docteur puisse la toucher. Une fraction de seconde, et sa main l'aurait touchée. Combien la parole du Seigneur est parfaite.
Amen.
Maintenant, il y a là mon épouse, et nous sommes les deux devant Dieu. Mais avant même que la main du docteur eût pu toucher son corps, alors qu'il avançait sa main, quelque chose arriva. La tumeur disparut. Elle ne put même pas, il dit, je crois que c'est cela, n'est-ce pas chérie? Je veux vous rassurer, Madame Branham. Est-ce bien ainsi qu'il l'a dit? C'est juste. Cette tumeur n'est plus là. Vous n'avez plus de tumeur. Qu'était-ce? Exactement selon la parole du Seigneur qui avait été prononcée.
Amen.
Amen. C'est la 5e fois. 5 est le nombre de la grâce. Le nombre de la foi, 5 lettres en anglais. Aussi, il n'y a plus de doute dans mon esprit. Je sais ce qu'est le 3e poule et je sais ce qu'il fait. Maintenant, soyez respectueux. Restez tranquilles. L'heure viendra bientôt où Dieu fera de grandes choses pour nous. Maintenant, inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur Jésus, je l'ai vu sur d'autres personnes, mais quand c'est arrivé à ma chère épouse, c'était alors dans mon foyer, Seigneur. J'ai regardé cela de mes propres yeux, senti de mes propres mains ce que 16 ans auparavant, Seigneur, tu connaissais et que tu as révélé toi-même. Quand quelque chose est prononcé, cela doit s'accomplir. Tu m'as alors montré, Seigneur, que ma confiance devait être dans ce que tu avais déjà fait pour les gens, et que tu te révélerais à moi afin que je puisse les aider. Tu as permis que cela arrive dans mon propre foyer. C'était le premier poule, et maintenant le troisième poule a confirmé le premier. Nous en sommes reconnaissants, Père. Pardonne nos manquements. Nous sommes de petites gens, sans éducation et plus ou moins illettrés. Mais nous sommes si reconnaissants d'avoir un grand Dieu omnipotent, qui veille sur nous et se soucie de nous, car nous ne savons pas comment prendre soin de nous-mêmes. Nous nous en remettons à toi. Maintenant, Père, je te prie de m'aider dans ce troisième poule. Oh, Seigneur, comme tu en as parlé ces dernières années, le montrant par des signes sur des montagnes, etc., et en continuant à l'élever toujours plus haut, j'ai observé cela pour voir ce que c'était, jusqu'à ce soit complètement confirmé. Je te prie, Père, de m'aider à avoir plus de respect encore pour ceci qu'auparavant, et que la gloire t'en revienne.
Amen.
Comme ce fut le cas, lorsque de cette même chair, le premier fut annoncé. Puis le deuxième est maintenant le troisième. Ce que tu as dit est arrivé exactement tel que tu l'as dit. Nous te croyons, Seigneur Dieu. Aide chacun de nous à se débarrasser de son incrédulité et de ses superstitions, afin que nous puissions nous tenir dans la présence du Dieu vivant. Sachant que c'est le même Dieu qui enleva cette tumeur de ma femme ici présente. Cela a été constaté par des sommités du monde médical de notre pays, qui ensuite l'examinèrent, la photographièrent, et maintenant ça a disparu. Tu es Dieu, et hors de toi il n'y en a point d'autre, et nous t'aimons parce que tu as permis que nous devenions tes serviteurs. Puissions-nous te servir avec révérence et honneur tous les jours de notre vie. Accorde-le, Seigneur, puissions-nous, moi et ma famille, et tous ces gens être des lumières éclatantes, du sel vraiment salé, qui créera dans le cœur des autres une soif d'aimer ce Jésus qui a tant fait pour nous. Maintenant, alors que j'ouvre la parole pour y trouver un petit texte, et ensuite prier pour les malades, aide-moi, Seigneur, parle-nous et guéris les malades, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Voudriez-vous, ai-je le temps? Si je me dépêche vraiment avec ce texte ici, je veux que vous lisiez maintenant, ou notiez simplement comme vous voudrez. Le premier passage se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 21, versets 5 à 19. Et nous voulons le lire. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, de la nourriture d'ange. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, une confession, observez, nous avons péché. C'est la première chose à faire pour la guérison. Premièrement, la confession. Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Maintenant, j'aimerais aussi lire un passage dans Zacharie, au chapitre 12, le verset 10. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Maintenant, je vais prendre comme texte « Tournez les regards vers Jésus ». Détournez les regards du monde pour les fixer exclusivement sur Jésus. Moïse fut le serpent, et plus tard le prophète parla de ce qui allait arriver, détournant ainsi les regards sur Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 45, 22, nous voyons que Dieu dit, « Tournez-vous vers moi, ou regardez-moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Et maintenant que la terre arrive à sa fin, ou que les systèmes de la terre arrivent à leur fin, puissent les gens regarder à lui. Vous direz peut-être, nous entendons ça depuis des générations, cela fait longtemps que nous entendons ceci. C'est vrai. Et cela a été prêché longtemps. Beaucoup de prédicateurs ont pris ce même texte, des milliers d'entre eux. Mais voici la chose que j'aimerais vous demander ce soir, dans ces prochaines minutes. Quand vous regardez, la question est, que voyez-vous quand vous regardez? Que voyez-vous quand vous regardez? Cela dépend simplement de ce que vous recherchez. Maintenant, il a dit, regardez-moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Moïse éleva le serpent, et quiconque le regardait était guéri. Maintenant, cela dépend de ce que vous recherchez. J'ai vu des gens venir aux réunions en ces temps de la fin, et qui n'ont pu rester assis plus d'une ou deux minutes. C'est tout ce qu'ils pouvaient supporter. Je n'oublierai jamais, j'espère que ceci ne fera tort à personne qui vient de l'état de l'Iowa, lors de la réunion à Waterloo, frère Lee Bale, il était ici ce matin, je ne sais pas s'il est ici ce soir ou non, es-tu ici Lee? Il était ici ce matin, oui, là dans le local d'enregistrement, très bien. Frère Lee et moi avons fait tout ce que nous pouvions. Nous avons offert à l'association ministérielle un déjeuner simplement pour avoir l'occasion de leur parler. Frère Lee, bien sûr, est un érudit et un docteur en théologie. Il a vraiment mérité son diplôme. Et j'ai essayé de le convaincre de parler à ses luthériens, presbytériens et autres, mais il a dit, « Non, ils s'attendent à ce que ce soit toi qui le fasses. » Ainsi, je suis allé là-bas, et après le repas, j'ai pris mon texte devant ses serviteurs de Dieu. J'ai pris comme sujet, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Je venais à peine de terminer de lire le passage de l'Écriture, que deux se regardèrent et prirent la porte. Et comme je commençais à parler de Paul, qui eut à son époque un étrange ministère et qui déclara, alors qu'il se tenait devant Agrippa, qu'il n'avait pas été désobéissant à la vision céleste. Environ deux ou trois autres se levèrent. Et lorsque j'en arrivais au texte lui-même, il ne restait plus que trois ou quatre. Ils s'étaient tous levés les uns après les autres et étaient partis. La raison est la suivante. Certains viennent à une réunion quand ils entendent parler d'un évangéliste. La manière dont ils s'habillent influence les gens. S'ils ne portent pas le genre d'habit attendu, certains... J'ai entendu l'autre jour un psychologue déclarer, Docteur Naramore, un brave homme, un chrétien, son émission est toujours diffusée sur l'émetteur de radio KIR. Ce psychologue déclara ce qui permet de dire qu'un homme a perdu l'esprit, c'est qu'il ne s'habille plus convenablement. Vous savez, la manière dont il doit se présenter devant le public. C'était le signe qu'il avait perdu l'esprit. Eh bien, dans ce cas, j'étais fou toute ma vie, parce que je porte des salopettes, etc., voyez-vous. Ainsi, d'après ma position, je devrais m'habiller comme un ecclésiastique, en d'autres termes, pour être un ecclésiastique. Je ne pense pas que Jésus s'habillait comme un ecclésiastique, il s'habillait comme un homme ordinaire. Il se mêlait aux hommes et n'avait rien d'élégant. Mais voyez-vous, ce n'est que la pensée des hommes. Maintenant, pour en revenir à cet homme ou à ce docteur, je me demande ce qu'il penserait du prophète qui, dans la Bible, reçut l'ordre de déchirer ses vêtements et de marcher nu devant les gens. Il aurait vraiment été pris pour fou de nos jours, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui lui avait dit d'agir ainsi. Un autre dut rester couché sur le côté pendant 390 jours, je crois que c'est ça, rester couché sur un côté, puis se retourner de l'autre côté et manger le contenu d'un pot de lentilles qu'il dut préparer lui-même. C'est tout ce qu'il dut manger tout le temps. Tendre la main, en prendre une bouchée et la manger couchée sur le côté, pour servir de signe. Oh, à quel point les gens peuvent être éloignés de la véritable parole de Dieu. Ils deviennent si instruits qu'à la fin, ils s'instruisent eux-mêmes en s'éloignant et s'éloignant ainsi de Dieu. Quand un homme dit qu'il a reçu une éducation, je sais que cela représente la distance qui le sépare de Dieu. Un diplôme de docteur, je ne dis pas ceci contre le docteur Vail, parce qu'il n'est pas de ce type-là, mais généralement, quand un homme obtient un diplôme de docteur, cela veut dire simplement pour moi qu'il est d'autant plus éloigné de Dieu, à moins qu'il puisse se cramponner à la parole de Dieu. Maintenant, nous voyons que certains viennent pour entendre la manière dont vous parlez. Quand ils viennent regarder, vous parlez de la guérison divine et du Seigneur. Si un homme n'est pas typiquement un érudit, les gens ne peuvent pas supporter de l'entendre utiliser des mots populaires tels que « his » et « hein » en pensant simplement que c'est très loin de Dieu. Que dire de Jésus qui s'exprima d'une façon si simple qu'aujourd'hui cela embarrasse les professeurs, car ils essayent de l'interpréter d'après leur érudition, alors que le langage de ce temps-là, c'était le langage de la rue. C'est pourquoi, regardez, il y a tellement de différences, même aux États-Unis. J'ai téléphoné de Floride à New York, et j'ai dû prendre une dame de Saint-Louis pour être l'interprète d'une jeune fille du Sud qui entrait en contact avec une autre du Nord. C'est pour vous montrer la différence qu'il peut y avoir, certainement. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les gens recherchent ces choses, et les discours, plutôt que la parole. La parole manifestée étant l'évidence que c'est juste. La parole manifestée. Ils ne regardent jamais à cela. Vous devez avoir une conception intellectuelle pour savoir et aller au séminaire pour apprendre comment s'agenouiller, comment se tenir quelque part et toutes ces choses qui feraient suffoquer un prédicateur vraiment rempli du Saint-Esprit. C'est de l'intellectualisme. Voilà ce que notre pays est devenu. Il a une conception intellectuelle de Christ. C'est ce qu'on recherche. Pour que Christ soit en vous, vous devez être un érudit. Vous devez être un intellectuel, parce qu'on pense que Christ en était un. D'autre part, ils forment leur propre opinion de ce qu'ils devraient être, leur propre idée, au lieu de croire ce que la parole déclare. C'est ainsi, quand ils regardent et voient Jésus lui-même, ils ne le reconnaissent pas. C'est ce qu'ils firent le jour de la Pentecôte. C'est ce qu'ils firent quand il était dans la chair. C'est ce qu'ils firent quand il était dans la crèche. C'est ce qu'ils firent quand il était dans les rues de Jérusalem. C'est ce qu'ils firent quand il était sur la croix. Bien qu'il était l'accomplissement de cette parole, ils s'attendaient à voir le Messie descendre du ciel avec gloire et tout le reste. Mais ils étaient dans l'erreur à cause de leur conception intellectuelle. Ils ne le virent pas, bien qu'il fût là devant eux. C'est ainsi aujourd'hui. Que voyez-vous quand vous regardez? Certains regardent pour voir. Quand ils le regardent, c'est avec le désir de voir un grand intellectuel, fondateur d'une église, quelqu'un capable de produire un credo qui amènera tous les gens à le croire. C'est ce qu'ils désirent voir quand ils regardent. Certains regardent pour voir un mythe, comme Saint Nicolas. Ils lisent la Bible et disent « Oh, c'est un mythe, c'est seulement quelque chose que l'homme a écrit. » C'est ce qu'ils... Parce que l'opinion que vous avez de la Bible, c'est celle que vous avez de lui, voyez-vous? Certains regardent pour voir un bébé. Certains regardent et voient un lapin ou Saint-Nicolas. Certains regardent pour voir un livre historique, se rapportant à hier et non aujourd'hui. Mais la question est, que voyez-vous quand vous regardez? Il y en a tant parmi vous qui prétendent avoir le Saint-Esprit et qui regardent et voient la deuxième personne d'une trinité, alors que ce n'est même pas mentionné dans la Bible. Cela n'existe pas. Le mot « Trinité » n'est même pas dans la Bible. Et pourtant, quand vous regardez Jésus, vous le considérez comme étant la troisième ou la deuxième personne d'une Trinité. Et c'est la raison pour laquelle vous n'arrivez nulle part. Savez-vous ce qu'il a dit? « Je suis Dieu, et en dehors de moi, il n'y en a point d'autre. » Cela dépend de ce que vous regardez. Si vous placez devant vous un petit garçon porte-bonheur, un vieil homme avec une barbe, etc., si c'est ainsi que vous regardez Jésus comme étant une personne différente de Dieu, vous regardez mal. Vous ne le voyez pas. Tenez, il n'y a pas longtemps, j'avais une paire de jumelles. J'essayais d'observer une antilope dans la campagne, et mon fils cherchait à me la montrer. Il est passablement plus jeune que moi. Ainsi, il me dit, « Prends ces jumelles, papa, il y a une antilope juste là. » Je lui dis, « Je peux la voir à l'œil nu. » Il dit, « Prends ces jumelles. » Quand je regardais, j'avais une dizaine d'antilopes. Les jumelles n'étaient pas réglées. Et lorsque j'eus fait la mise au point, les 10 devinrent une seule. si vous faites la mise au point de votre pensée sur la parole de Dieu, les trois seront un.
Amen.
Mais vos lunettes ecclésiastiques se brouillent quand vous essayez de faire de Dieu trois personnes. Il est un. Cela dépend de ce que vous regardez. Que voyez-vous quand vous regardez? Souvenez-vous, vous pouvez le voir seulement quand vous le regardez au travers de la parole. Vous ne pouvez pas le regarder au travers d'un manuel. Vous ne pouvez pas le regarder au travers d'un credo. Vous verrez deux ou trois dieux et tout le reste dans ces credos. Mais regardez-le au travers de la parole et vous verrez qu'il est Emmanuel. Dieu fait chair parmi nous. Il a dit, je suis Dieu et en dehors de moi, il n'y en a point d'autre. Il y a deux dieux. Esaïe le prophète regarda une fois et quand il vit Jésus, mon sujet est détournant les regards sur Jésus ou tourner les regards vers Jésus. Quand Esaïe détourna ses regards du monde pour le voir, il dit, j'ai vu un conseiller, un prince de la paix, le Dieu puissant, le Père éternel. C'est ce que Esaïe vit en détournant ses regards. Une fois Daniel vit la fin des royaumes des gentils. Il vit l'image que Nebuchadnezzar avait vue en songe. Il vit comment l'un succéderait à l'autre en partant de la tête. Et lorsqu'il regarda pour voir ce qui allait arriver à la fin, et qu'il vit Jésus, celui-ci avait l'aspect d'une pierre qui se détachait de la montagne sans le secours d'aucune main et qui va écraser les royaumes des gentils. Nebuchadnezzar jeta dans la fournaise ardente trois enfants hébreux qui croyaient en Dieu et s'appuyaient sur sa parole. Même s'ils devaient mourir pour elle, ils étaient décidés à rester debout, bien qu'on ne leur demandât que de s'agenouiller d'une façon quelque peu différente. Mais lorsque le roi détourna les regards et vit Jésus, il était le quatrième, la quatrième personne de la fournaise ardente, dont la présence protégea de la chaleur ses serviteurs obéissants. C'est ce que vit Nebuchadnezzar. Ézéchiel détourna un jour ses regards pour le voir, il vit une roue au milieu d'une autre roue. Tout en haut dans les airs, il était le moyeu de la roue auquel est fixé chaque crayon. Amen. La grande roue marchait par la foi, mais la petite roue tournait par la puissance de l'Éternel. C'est ce que vit Ézéchiel lorsqu'il détourna ses regards. Jean-Baptiste détourna un jour ses regards et vit une colombe, et une voix dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » C'est ce qu'il vit. Ensuite, il vit Jésus et Dieu en une seule et même personne, parce que l'Esprit descendit du ciel sous la forme d'une colombe, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » C'est ce qu'il vit. Remarquez, il s'identifia de cette manière. Noé, quand il détourna les regards pour le voir, vit le juste jugement de Dieu descendre sur les gens de ce monde qui avaient rejeté sa parole. C'est ce que vit Noé quand il détourna ses regards. Moïse, quand il détourna les regards, vit un buisson en feu. Une colonne de feu était venue dans un buisson, et quand Moïse s'en approcha, une voix lui dit, « Enlève tes souliers, car je suis. » Maintenant, si vous vous penchez sur le mot « je suis », vous constaterez qu'il est au passé, au présent et au futur. « Je suis ». C'est éternel, voyez-vous, je suis, il vit le je suis, c'est ce qu'il vit dans le buisson ardent. Israël regarda le serpent des reins que Moïse avait fait, et vit là les souffrances de Christ, le jugement qui devait le frapper pour la guérison des malades. Car nous savons que le serpent parlait de l'expiation, Jésus était cette expiation, et comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est dans le même but. Pourquoi ils avaient péché et étaient tombés malades? C'était pour enlever leur péché et leur maladie. C'est aussi pour cette raison que Jésus fut blessé pour nos péchés, que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si vous séparez la guérison divine de Christ, vous rejetez la moitié de l'expiation. Que voyez-vous quand vous regardez? Le voyez-vous? Voyez-vous qu'il fut blessé pour nos péchés, que par ses meurtrissures, nous avons été guéris? Quand vous détournez vos regards, pouvez-vous voir cela, ou ne pouvez-vous voir qu'un côté de l'expiation? Pouvez-vous en voir les deux côtés quand vous regardez? Si vous le regardez au travers d'un credo, on vous dira « le temps des guérisons est passé ». Mais si vous le regardez au travers de la parole, vous verrez qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les disciples regardèrent à lui lorsqu'ils furent sur une mer agitée. elles virent venir le seul secours qu'ils pouvaient recevoir. Marthe regarda à lui alors que la mort avait frappé, et elle vit qu'il était la résurrection à la vie. Amen. Dans une période sombre, Marthe vit quand elle le regarda. Il avait été rejeté par son peuple. Il avait été repoussé. Elle avait même envoyé chercher, mais il ne vint pas vers son frère. Quand finalement il arriva, elle tomba à ses pieds, puis regardant à lui, elle découvrit qu'il était à la fois la résurrection et la vie. Amen. Jairus fit la même chose. Il croyait en secret. C'était un petit presbytérien, méthodiste ou baptiste. Il croyait vraiment, mais il ne pouvait pas y aller parce que sa dénomination ne lui permettait pas et qu'il aurait été excommunié. Mais sa petite fille, unique, se trouvait à la mort, et il dut y aller. Et quand il le trouva, il découvrit qu'il était la résurrection à la vie. Quand il l'envoya chercher, un messager vint au courant lui dire, « Ne dérange pas le maître, car ta fille est déjà morte. » Et son cœur s'arrêta presque de battre, mais il dit, « N'a-t-il pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jairus découvrit, lorsqu'il regarda Jésus, qu'il pouvait ressusciter les morts. Les affamés regardèrent à lui et trouvèrent une nourriture fortifiante pour la vie du corps. C'était dans le naturel. De même, les affamés spirituellement peuvent regarder à lui et découvrir qu'il est le pain de vie. Lorsque le brigand se mourait, il regarda Jésus pour voir, elle trouva en lui son pardon. « Souviens-toi de moi, Seigneur, que tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est ce qu'il vit à l'heure de sa mort. Les malades regardèrent à lui et virent le guérisseur. Les aveugles regardèrent et purent voir. Cela dépend de ce que vous regardez. À quoi regardez-vous? Pierre et Nathanaël regardèrent et virent la parole promise par leur prophète Moïse manifestée. L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi, et c'est à lui que les gens s'attacheront. Et tous ceux qui ne le croiront pas et qui n'écouteront pas ce prophète seront retranchés du milieu du peuple. Et quand Pierre entra dans sa présence, Jésus lui dit, « Ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas. » Il sut à ce moment-là, lorsqu'il regarda Jésus pour la première fois, que c'était l'accomplissement de ce que la parole de Dieu avait annoncé à son sujet. Amen. Je me demande si vous avez fait la même découverte quand vous l'avez regardé la première fois. Je me demande si la parole promise s'est manifestée à vous quand vous l'avez regardé. Aussitôt que Nathanaël fut en présence de Jésus, il doutait quelque peu. Nous voyons que Philippe était allé lui dire, « Viens voir qui nous avons trouvé. » Et Nathanaël vint et dit, « Lequel est-ce ? » Il se dit, « C'est probablement celui qui est là-bas en train de prier pour les malades. » Alors il se fraya un chemin pour le voir de près. Et quand il regarda, Jésus dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Il dit, « Rabbi, d'où me connais-tu ? » Il répondit, « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Que réalisa alors Nathanaël? Il découvrit qu'il y avait là le roi d'Israël. Il dit, « Tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » C'est ce qu'il vit quand il regarda. Il vit l'interprétation de l'Écriture mise en lumière devant lui. Il vit cela. La même écriture que Moïse, le prophète oint, avait prononcée. « Il sera un prophète comme moi. » La femme au puits regarda une fois. Et que vit-elle? Elle l'exprima dans la ville par ses mots. « Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. Ne serait-ce point le Messie? » Quand elle regarda pour la première fois Jésus-Christ, elle vit le Messie. Les gens peuvent voir la même chose aujourd'hui et l'appeler néanmoins de la télépathie. Ils l'appelleront du spiritisme, ils l'appelleront de toutes sortes de démons, de noms de démons, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Amen. Ils ne comprennent pas. Ils cherchent un credo, ils cherchent un génie qui mette l'Église dans l'ordre. Ils cherchent davantage de membres et ne voient pas le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole identifiée. C'est vrai. Cela dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez l'accomplissement de la promesse pour aujourd'hui, vous le verrez. Mais si vous cherchez quelque chose d'intellectuel, ou quelque chose qu'on a toujours recherché, un grand fondateur, un historien, une certaine personne, vous ne le verrez pas. Mais quand vous regardez à lui, au travers de la parole déclare qui il est. Il incita les gens de son époque à agir ainsi. Mais ils ne purent le voir. Il dit, « Aveugle, conducteur d'aveugles, vous prétendez que Moïse est votre prophète. Si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu. Car Moïse écrivait à mon sujet. Mais il était trop aveugle pour le voir. » Il le regardait en face, il était trop aveugle pour le voir. J'essaie d'établir un parallèle avec ce que j'ai dit ce matin pendant quelques instants. Ils regardent sans savoir ce qu'ils cherchent, parce qu'ils ont une fausse conception de ce qu'ils essayent de trouver. Comment sauriez-vous ce que vous allez trouver si vous ne savez pas ce que vous cherchez? Comment pourriez-vous partir à la recherche d'une citrouille si vous n'en avez jamais vu, ou que vous n'en ayez jamais entendu parler? Comment pourriez-vous partir chercher une pastèque si vous n'aviez jamais su que cela existait ou à quoi ça ressemblait? Vous pourriez trouver un baquet et penser que c'est une pastèque. Vous pourriez trouver autre chose, vous pourriez trouver un bloc et penser que c'est une pastèque. Mais vous devez savoir ce que vous cherchez. Et la seule manière pour vous de savoir ce que vous cherchez, si vous cherchez Jésus, vous regarderez à la parole, car il est la parole.
Amen.
Ainsi vos pères ont prétendu que lorsque Dieu leur envoyait les prophètes, mais c'est eux qui tuèrent les prophètes, tous ceux qui vinrent, dire Jésus. Lequel vos pères n'ont-ils pas lapidé? Et vous faites les œuvres de votre père. Amen. Des hommes justes, des hommes saints, des hommes sur lesquels vous n'auriez rien trouvé à redire, et pourtant, il les appela des serpents et des démons. Que cherchez-vous? Si vous cherchez une personne pieuse, certains pensent que, parce que le Saint-Esprit agit au travers de vous, vous devriez être une personne pieuse, et même, ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu ne traite pas par l'intermédiaire d'anges comme cela, ou qui sont censés l'être. Dieu traite à travers des hommes. La Bible dit, Élie était un homme de même nature que nous. Mais vous ne pouviez pas être avec lui avant d'avoir vu Jésus. Pierre et Jean, à la porte appelée la Belle, quand ils les emmenèrent pour avoir guéri cet homme, ils dirent qu'ils étaient ignorants et sans instruction. Mais ils virent aussi qu'ils avaient été avec Jésus, parce que sa vie se réfléchissait en eux. Maintenant, cela dépend de ce que vous cherchez. La femme avait lu la Bible. Elle savait qu'un Messie allait venir, et ce que le Messie ferait. Et aussitôt que Jésus leur dit, « Apporte-moi à boire », elle dit, « Ce n'est pas selon nos habitudes. » Il n'était qu'un homme ordinaire, mais il était assis là, portant un gros turban et toutes sortes d'ornements, comme une personne sainte. La femme aurait dit, « Eh bien, voilà un prêtre. » Ou, « Voici une sorte de rabbi. » Et aurait continué sans autre. Aujourd'hui, j'ai vu un homme entrer là où j'étais allé manger. Ça devait être une sorte de prédicateur. Il avait sur lui suffisamment de croix et autres. C'est bien parfois que ces gens portent cela. Je pense que vous devriez avoir une vie correcte. Mais vous n'avez pas besoin de porter des habits d'ecclésiastique pour prouver ce que vous êtes. Parfois même, ils boivent, se conduisent si mal, fument et tout le reste, si bien qu'ils doivent porter des habits d'ecclésiastique pour savoir eux-mêmes s'ils sont ministres ou pas. C'est vrai. Je vous dirais que les habits d'ecclésiastique qu'un homme doit porter, c'est le baptême du Saint-Esprit. Cela vous identifiera comme étant avec Jésus. Maintenant, nous voyons que cela dépend de ce que vous cherchez. Est-ce un homme bien habillé, bien soigné, portant une sorte de turban? Alors vous ne le verrez jamais, lui, parce qu'il n'était qu'un homme ordinaire. Dieu traite avec des hommes. Jésus était un homme. Dieu était dans l'homme, et il était Dieu. Maintenant, nous voyons que cette femme, quand elle vit ce signe mystérieux, c'est-à-dire est-ce qu'il pouvait lui révéler ce qu'elle avait fait de mal, ou ce qu'elle avait sur le cœur, cette femme sut immédiatement que c'était le Messie. Ainsi, quand elle regarda Jésus, elle vit le Messie. Le Messie. Quelles étaient les œuvres du Messie? Connaître les secrets du cœur. L'avez-vous bien compris? Je me demande si vous allez comprendre. Si vous le cherchez ce soir, qu'allez-vous chercher? Il serait le même. Le Messie est la parole. La parole. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 4 que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager, elle discerne les pensées qui sont dans le cœur. Lorsqu'elle sut que ce Messie devait être cette parole manifestée, et qu'il pouvait lui dire ce qui n'allait pas chez elle, elle sut que c'était le Messie. Pas par la manière dont il était habillé, pas par l'éducation qu'il avait, mais par le signe qu'il lui montra. Il était le Messie. Quand elle vit Jésus, elle vit le Messie. Dieu dans un homme, comme promis pour cet âge joint. Mais savez-vous, beaucoup dans les âges dont j'ai parlé n'ont jamais vu cela. Beaucoup ne l'ont pas vu. C'est pareil aujourd'hui. Beaucoup ne reconnurent pas Moïse. Beaucoup ne reconnurent pas Élie. Ils ne les reconnurent jamais, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus là. Ensuite, ils les reconnurent. L'incroyant du temps de Noé vit seulement. À quoi regardait l'incrédule? Je vous ai dit ce que le croyant avait vu. Maintenant, voyons ce que virent les incroyants. Du temps de Noé, que virent les incroyants lorsqu'ils regardèrent? Ils virent un fanatique divaguant sur un soi-disant bateau. C'est tout ce qu'ils virent. Un vieux fou avec une longue barbe blanche qui avait perdu la tête et qui disait à l'encontre de la recherche scientifique et de preuves, « Il y a de l'eau là-haut. » Eh bien, le pauvre vieillard le faisait pitié. Il le laissait de côté, disant, « Il sera bientôt déclaré fou. Il a perdu l'esprit. » Mais il avait la parole du Seigneur. Il construisit l'arche sans s'arrêter, et Dieu montra par là l'évidence que le déluge était sur le point d'arriver. C'était un signe pour eux. Ceux qui ne crurent pas à l'histoire de Noé errèrent dans les ténèbres, finirent par se noyer, et reçurent comme tombe l'enfer. Pharaon regarda une fois. Que vit-il? Que vit Pharaon? Il vit un fanatique, soi-disant prophète, avec beaucoup de prétentions de soi-disant délivrance. C'est tout ce qu'il vit. Un ouvrier travaillant la boue, un esclave parmi le peuple qui se croyait envoyé de Dieu pour accomplir des miracles. On pensait que cet homme avait perdu. On disait de lui, laissez-le délirer, on le déclarera fou dans quelque temps. Mais il avait le « ainsi dit le Seigneur ». Les croyants, Aaron, Josué et beaucoup d'autres virent Dieu en Moïse. Et les œuvres de Dieu, Moïse les fit. C'est la raison pour laquelle ils surent que Dieu était en lui. Ils regardèrent et virent Dieu en Moïse. L'homme riche regarda et vit exactement qui il était. Mais il refusa de le suivre, parce qu'il aimait trop les choses du monde pour suivre Jésus. Combien d'hommes riches de ce type écouteront cette bande? Vous n'avez pas toujours besoin d'être riche quant à l'argent? Non, vous pouvez aussi être riche dans la convoitise, riche dans les plaisirs de cette vie. Combien d'hommes, combien de jeunes filles, combien de jeunes gens renonceraient à leur popularité de reine du sexe ou de Ricky à banjo ou à guitare divertissant les gens avec du rock and roll ou certaines danses? Combien nombreux seraient ceux d'entre eux qui revendiqueraient les richesses de la popularité et refuseraient d'accepter Christ, alors qu'ils assistent à des réunions et observent la main de Dieu qui agit et confirme sa parole? Combien? L'homme riche choisit sa dénomination. Il pouvait vivre par elle. Jésus fut considéré comme un fanatique par sa dénomination. Ainsi, il dut soit accepter ce que Jésus disait ou « Pourquoi cet homme n'alla pas dire à son prêtre « Que puis-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il savait que le prêtre ne savait rien. C'est pourquoi il va vers Jésus et dit « Que puis-je faire ?» Jésus lui répondit « Garde les commandements. » Il dit « Je l'ai fait. » Il dit « Garde les commandements. » Mais il n'avait toujours pas la vie éternelle et il le savait. Vous pouvez garder tous les commandements sans pour autant avoir la vie éternelle. Ainsi Jésus dit, « Maintenant, si tu veux faire ce qui est juste, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » C'était alors trop lui demander. Nous voyons qu'il regarda et vit qui il était, mais malgré cela, il refusa de l'accepter. Et lorsqu'il regarda à nouveau, c'était en enfer lorsqu'il leva les yeux et vit Lazare dans le sein d'Abraham. Pilate regarda une fois lorsqu'on le lui amena. Il n'avait jamais vu auparavant. Ses mains étaient attachées. Le sang coulait de son dos. Il avait une couronne d'épines sur la tête. Pilate regarda et fut convaincu. Parce qu'un homme à cheval, descendant la rue au galop, sauta à terre, arrivant en courant, lui dit, « Voici une lettre que ta femme t'envoie. » Il la regarda et lut, « Pilate, mon mari bien-aimé, n'ai rien à faire avec cet homme juste. » Car aujourd'hui j'ai rêvé de lui et j'ai beaucoup souffert. Il trembla et ses genoux s'entrechoquèrent. Il dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es le roi, pourquoi ne le dis-tu pas franchement? Es-tu le roi d'Israël? Jésus répondit, tu l'as dit. Il dit, dis-nous la vérité. Il répondit, c'est dans ce but que je suis né.
Et Pilate s'émerveilla. Mais tout le monde suppliait, pleurait à ses pieds. Il dit, « J'ai le pouvoir de te tuer ou de te relâcher. » Jésus lui dit, « Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné par mon Père. » Oui, monsieur, il était convaincu qu'il était plus qu'un homme. Il était entièrement convaincu que c'était plus qu'un homme, vraiment. Mais alors, sa politique et sa popularité étaient trop grandes. Aussi il le repoussa. Sa popularité était trop grande. La politique, sa position dans la vie était trop importante pour lui permettre d'accepter ce fanatique. Je me demande combien de Pilate écouteront ceci. Votre position dans une certaine dénomination sera trop importante pour que vous puissiez accepter le réel Seigneur Jésus dans sa position aujourd'hui. Le soldat romain, au pied de la croix, regarda Jésus. Après que la terre eut un soubresaut nerveux, une secousse telle que les rochers se détachèrent de la montagne. Le soleil se coucha au milieu du jour et ce fut l'obscurité. Les étoiles ne brillèrent plus. Des rochers jaillirent de la terre, il y eut un tremblement de terre. Le zigzag des éclairs traversa les cieux, et le voile du temple se déchira de haut en bas. Les gens se mirent à courir et à crier, ils ne savaient pas ce qui était arrivé. Ce soldat romain qui avait aidé à le clouer là, et qui avait enfoncé l'épée dans son cœur, regarda. Mais c'était trop tard. Il regarda et crut, mais c'était trop tard pour croire. Ce qu'il avait fait avait scellé son destin. Il avait fait passer la lance au travers du cœur du Sauveur. C'était trop tard. Je me demande combien de Romains aujourd'hui ont fait la même chose et le feront encore. Un jour vous regarderez peut-être, mais ce sera trop tard. Beaucoup aujourd'hui viendront ce jour-là et seront comme lui. Pourtant, ils l'ont su. Frère Wood, hier, je dis ceci parce que c'est dans ce message. À l'accompagner Slider, un catholique romain était là. Frère Wood partit chercher du béton pour l'église, et quand il lui dit à quoi il le destinait, le catholique romain ajouta, « Est-ce pour Frère Branham ?»« Oui. » Il dit, « Je sais une chose, quand il prie, Dieu répond. » Alors je me demande, quand une personne sait cela et voit l'évangile véritablement confirmé, pas moi, quiconque représentant Christ, c'est de la parole que nous parlons, et non de l'homme. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Il voit la parole clairement confirmée, comme ce fut le cas pour Pilate, le soldat romain les autres, mais vont-ils attendre jusqu'à ce que ce soit trop tard pour faire quelque chose? Cet homme aurait mieux fait de retourner la lance de son côté. Les portes se fermeront, comme ce fut le cas du temps de Noé. Alors ce sera trop tard. Vous vous réveillerez peut-être un matin, vous direz, « Je veux sortir de cette saleté. » N'attendez pas trop longtemps, vous feriez mieux de regarder maintenant et de vivre. Luther détourna ses regards du catholicisme. Que vit-il? Une colonne de feu. Il vit une église indépendante. Wesley détourna ses regards de l'anglicanisme et vit la même chose. La Pentecôte détourna les regards de toutes les dénominations. Qu'était devenu? Un grand peuple puissant. Que fit chacune de ces églises lorsque les générations suivantes détournèrent leurs regards? Et virent ce que les fondateurs Luther, Wesley et les autres avaient fait et commencé, que leurs enfants regardaient en arrière d'où ils étaient sortis de la dénomination, ils reconduisirent ces gens dans le gâchis même d'où ils étaient sortis. À quoi regardez-vous? Les fondateurs regardèrent juste au roi de Dieu, mais ceux qui les suivirent regardèrent en arrière à la chose dont les fondateurs étaient sortis, ils firent exactement ce contre quoi les fondateurs combattaient. Vous savez, je dois me dépêcher, car ensuite j'aurai une ligne de prière, et je sais que beaucoup de vous doivent prendre la route. Un jour, je regardais. Je vis la parole faite chair. Je vis l'alpha et l'oméga. Je n'en vis jamais trois, quatre ou cinq, j'en vis un. Je le vis en tant que mon sauveur. Je le vis la parole, je le vis lui, la lumière, je le vis le Dieu Tout-Puissant. Je vis Dieu en lui, je vis la colonne de feu, je le vis exactement tel que la Bible le décrivait. Je vis qu'il était l'alpha et l'oméga, qu'il était la colonne de feu, qu'il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vis que la colonne de feu dit à Jean que sa présence continuelle, comme il a dit à Jean, sa présence continuelle ne vous quittera jamais. Frère, Ma pensée ce soir, chantez ce cantique, regardez vie, mon frère, vie. Regarde maintenant à Jésus et vie, car c'est enregistré dans sa parole. Alléluia! Il faut seulement que tu regardes et vive. Regardez, que voyez-vous? Voyez-vous la délivrance? Voyez-vous ce qu'il est? Regardez la parole et voyez ce qu'il était, puis regardez la même parole et voyez qu'il est le même aujourd'hui qu'il était alors. Jésus est l'antitype du serpent des reins qui avait été élevé dans le désert. Pour la même cause, le péché et la maladie. Un jour, Judas regarda, et à ce moment-là, après l'avoir vraiment bien regardé, auparavant, il avait regardé seulement à la trésorerie, à la cagnotte qu'ils avaient. Mais un jour, lorsqu'il regarda et vit Jésus, savez-vous ce qu'il vit? Il vit qu'il était coupable. Il vit qu'il ne méritait pas de vivre, et se pendit. Un matin, l'un des plus grands de toute l'histoire, je dis ceci pour terminer, quelque chose arriva à Jérusalem. Tout à coup, une bande de soldats descendit vers la prison. Je peux entendre le cliquetis des chaînes. Je peux entendre le bruit de la lance qu'on traîne dans la rue. Qui est là-dedans? Barabbas, il est prêt à mourir. C'est un voleur, un homme de rien, un voleur, un meurtrier. Il va mourir. Alors il dit, « Eh bien, tout est fini pour moi. Je vais être exécuté ce matin. » Tout à coup, le garde ouvre la porte. « Sors, Barabbas !» Il sortit et dit, « Eh bien, je pense que c'est la fin. » L'autre dit, « Barabbas, tu es absolument libre. »« Quoi ? Je suis quoi ? Je suis absolument libre ? » ?»« Tu es libre, ai-je dit. » Il dit, « Comment puis-je être libre ?» Il dit, « Viens ici, Barabbas, regarde là-haut. Tu vois cet homme qui est en train de mourir là-bas ? Il a pris ta place. » Je me demande si ce soir nous pourrions tous regarder et voir ce que vit Barabbas. Quelqu'un prenant notre place. Il fut blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses meurtrissures que je suis guéri, que vous êtes guéri. Je me demande si nous, les coupables, qui devrions être malades, pouvons voir en lui notre délivrance. Vous qui devriez aller en enfer, voyez en lui votre liberté, votre laissez-passer pour le ciel. Je me demande si vous pouvez voir ce que vit Barabbas ce jour-là. Jésus dit, « Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. » Ô Église, alors s'il a dit, « Vous me verrez », c'est la preuve que vous pouvez de nouveau regarder. Vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Comment le voyez-vous? Dans la parole. Il est la parole. Regardez la parole et voyez ce qu'est la promesse, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était quand il marchait en Galilée, il est aussi ce soir à Jeffersonville et au Branham Tabernacle. Que cherchez-vous en regardant? Un fondateur? Un homme de dénomination? Vous ne verrez jamais cela en Jésus. Regardez-vous pour voir quelqu'un ayant l'apparence d'un prêtre? Vous ne verrez jamais en Jésus. Non. Comment voyez-vous Jésus? Par la parole de Dieu rendue manifeste, parce qu'il était la parole de Dieu manifestée. Ce qu'il était alors, il l'est ce soir et le sera toujours. Inclinons nos têtes un instant. Je veux en rester là pour ce soir. Seigneur Jésus, je te prie de me laisser détourner les regards des soucis de la vie. Seigneur, je sais que nous ne sommes que des gens ordinaires, sans instruction. Nous ne possédons pas beaucoup des biens de ce monde, mais nous t'aimons, Seigneur. Et je parle pour ces gens. Ils ne resteraient pas assis dans un endroit comme celui-ci, serré, écrasé par la foule, ayant trop chaud ou gelant au froid, obligés de rester debout, venus avec leurs enfants et ceux qui sont malades et affligés, s'ils venaient ici pour voir autre chose que toi. Ces gens, Seigneur, ne viendraient jamais pour voir un homme. Il y a quantité d'hommes dans la rue. Ils se ressemblent tous, mais ils viennent pour voir cet homme de Dieu. Ce Jésus de Nazareth, en chair, est en Dieu. Maintenant, Père, tu nous as dit, encore un peu de temps et le monde ne te verrait plus. Peu importe combien ils le regardent, ils ne le verront jamais. Mais tu as dit, mais vous, vous me verrez, les véritables croyants, parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Tu nous as promis que si nous regardions, nous verrions. Et je te prie ce soir d'accomplir à nouveau cette écriture pour nous, afin que nous puissions regarder et voir Jésus se faire connaître à nous de la même manière qu'il l'a toujours fait. soit en accomplissant ta parole. Dorénavant, Seigneur, j'ai fait une déclaration tout à l'heure et c'est vraiment d'un cœur sincère que j'ai parlé au sujet des poules. Et tu m'as dit, maintenant, aussi mystérieux que cela puisse paraître, si seulement nous pouvions pincer notre conscience intérieure et voir que ces choses ne pourraient pas être prédites parfaitement comme elles le sont, à moins de venir de Dieu. Comment pourrions-nous voir cette première chose arriver? Comment la deuxième pourrait arriver? Comment la troisième pourrait-elle arriver? Comment aurions-nous pu, des mois avant que ça se produise, dire ce qui arrivera à Tucson, et que cela ouvrirait les sept sceaux, dévoilerait les mystères, et révélerait les choses tenues cachées par Dieu depuis le commencement? Et voir cela à la fois déclaré, attesté et prouvé scientifiquement. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, tu es tout ce que nous avons, et je te remercie, Seigneur, de ce que je suis une partie de ta grande économie. Je te remercie de ce que je suis un membre de ton corps, de même que beaucoup ici, beaucoup dans le monde, dans différentes églises, sont membres de ce corps mystique de Christ. Chaque fois que nous regardons, nous le voyons quand les oiseaux chantent, nous le voyons quand le soleil se lève, ou quand il se couche, nous l'entendons dans un cantique, nous le regardons dans son peuple, nous le voyons confirmer sa parole. Ô Seigneur, tu es notre Dieu. Nous t'invoquerons dès le matin. Tu es notre Père miséricordieux. Pardonne-nous nos fautes. Seigneur, nous sommes à la fin des temps. Je sais que les portes vont bientôt se fermer. L'ultime occasion. Et pendant qu'il fait encore jour, et que je peux encore aller dans certains de ces endroits, Seigneur, aide-moi à y aller. Je deviens vieux, donne-moi la force, renouvelle ma jeunesse, Seigneur. Aide-moi, afin que je puisse faire quelque chose là-bas maintenant, alors que j'attends ce grand moment qui doit venir et qui va venir. Aide-moi, Seigneur, alors que je vais à l'extérieur, afin que je puisse, d'une façon ou d'une autre, attraper cette dernière semence prédestinée qui ramènera le Seigneur Jésus. Aide-moi, ô Dieu. Et si je pose une fondation qu'un autre va utiliser, permets, Seigneur, que cela arrive bientôt, afin que la parole puisse être accomplie. Le désir de nos cœurs, c'est de voir ta parole accomplie. Nous t'aimons, nous te croyons, au milieu d'une génération d'incrédules qui doutent comme nous le voyons aujourd'hui. Seigneur Dieu, nous continuons à croire que ta parole ne faillira jamais. Nous croyons que les cieux et la terre passeront, mais qu'elle ne faillira jamais. Nous prenons position résolument pour cela. Maintenant, Père, de ce petit groupe qui attend, il y a beaucoup de malades, et il y en a peut-être un ici qui n'est pas sauvé, ou certains qui ont été sauvés, mais qui n'ont pas été remplis du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, puisses-tu te manifester selon la promesse de ta parole, afin que les gens, en regardant, voient Jésus, puissent s'humilier et lui donnent leur cœur, puissent les malades regarder et voir qu'il est impossible que quelque chose d'autre fasse cela à part Dieu, parce que c'est sa parole promise. Puisse ce que nous avons dit aujourd'hui dans les deux messages être maintenant confirmé. Tout est entre tes mains, Seigneur. Je suis entre tes mains et l'Assemblée l'est aussi. Œuvre à travers nous, Seigneur, afin que ton grand nom soit honoré. Ô Éternel, accorde ceci pour la gloire de Dieu. Amen.
Amen.
Je sais qu'il fait chaud. Je veux essayer maintenant de prier pour les malades. Si vous pouvez me donner 15 à 20 minutes, je ne sais pas combien de cartes ont été distribuées, mais nous allons simplement commencer à prier pour les malades. Billy m'a dit qu'il avait distribué. Très bien. Commençons à... Il a dit qu'il avait distribué les numéros allant de 1 à 100. Combien ici ont une carte de prière? Levez la main. Des cartes de prière. Cela en fait passablement, mais nous essayerons d'en prendre le plus possible. Maintenant, nous ne pouvons pas avoir le discernement pour eux tous. Vous savez, c'est pourquoi nous prierons simplement à chacun. Combien ici n'ont pas de carte de prière, bien qu'ils soient malades? Levez la main. Oh, il y en a beaucoup. Maintenant, regardez, qu'est-ce? Je sais que nous sommes peut-être un peu en retard sur le programme d'une quinzaine de minutes, mais j'aimerais dire ceci. Cela peut représenter la différence entre passer l'éternité au ciel ou en enfer. Voyez-vous, regardez, soyez respectueux Observez une minute, écoutez la parole et voyez s'il est toujours Christ. Maintenant, chaque personne ici me connaît probablement, mais il y en a beaucoup que je ne connais pas parce que je ne serai pas ici assez longtemps pour faire votre connaissance. Et beaucoup d'entre vous viennent de l'extérieur. Combien sont de l'extérieur? Levez la main. Voyez-vous? L'autre jour, j'ai demandé à quelqu'un en ville, « Vous arrive-t-il de venir ici ?» Il répondit, « Oh, c'est inutile que nous venions. Il y en a tellement qui viennent de l'extérieur que nous ne pouvons pas entrer. » Bon, nous arrangerons quelque chose pour qu'ils puissent entrer. Venez de toute manière. Remarquez qu'ils ont eu leur chance avant vous. Maintenant, souvenez-vous. Je suis simplement votre frère. Je suis sûr que vous le comprenez. Je suis un homme. Lui est Dieu. Mais Dieu peut œuvrer, et l'a toujours fait ainsi, au travers d'hommes seulement. Regardez ce soir, pas à moi ou à quiconque d'autre, regardez à Jésus-Christ. Regardez ce soir à l'Écriture, à ce qu'elle a promis. Combien, je peux vous donner toutes sortes de passages de l'Écriture, mais combien croiront simplement Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier. Et combien croient Jean 14:12, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Combien croient qu'il a promis que dans les derniers jours, juste avant sa venue, les pensées du cœur seraient à nouveau discernées comme elles le furent par lui? Vous le savez tous, très bien. Des centaines de passages de l'Écriture le confirment, nous le savons. Maintenant regardez, ne regardez pas pour voir un prédicateur, ne regardez pas pour voir un pasteur, regardez pour voir Jésus. Ne voyez pas l'homme, voyez Jésus. Quand vous regardez, voyez-le. Si je pouvais vous aider, je le ferais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas vous aider, je suis simplement votre frère, mais lui, il est votre Seigneur. Regardez à lui et croyez. Très bien, maintenant, commençons avec la carte de prière numéro... Eh bien, commençons avec le numéro 1. Combien? Le numéro 1, qui est la carte de prière numéro 1. Levez la main, où est-elle? Vous voulez dire que vous êtes... Oh, excusez-moi. Très bien, numéro 1. Venez ici, madame. De quel côté allez-vous les amener? De ce côté? Très bien. Venez ici, si vous pouvez marcher. Si on appelle quelqu'un, que cette personne soit estropiée, quelqu'un d'autre à la conduire ici. Numéro 1. Numéro 2. Quelle est la carte de prière numéro 2? Levez la main. Rapidement, si possible. Numéro 2. Où est-elle? Je ne la vois pas. Oh, pardon. Je ne peux pas. Par ici, madame. Numéro 3. Levez-vous ou... C'est juste. Numéro 3. Numéro 4. La carte de prière numéro 4. Voulez-vous lever la main? Où est-elle? Je ne la vois pas. La carte de prière numéro 4. Que dites-vous? Numéro 4. Numéro 5. Quel numéro 5? Voulez-vous lever la main? Je ne la vois pas. Numéro 5. Numéro 6. Numéro 6, rapidement, très rapidement, numéro 6, très bien, 7, 7, très bien, c'est juste, 8, 8, maintenant très rapidement, levez-vous très rapidement, très bien, 8, très bien, monsieur, 9, 9, où est-elle? Numéro 9, très bien, numéro 10, 10, très bien, 10, par ici, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je n'ai pas appelé trop afin que vous, voyez-vous la raison pour laquelle nous faisons ceci? Ce n'est qu'une carte portant un numéro, voyez-vous, et vous venez simplement par ce numéro, c'est pour les garder alignés. La carte de prière numéro 15, très bien, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Qu'ils viennent maintenant se mettre en ligne, 25. Vous formez ainsi une ligne. Maintenant, levez-vous simplement à l'appel de votre numéro, c'est juste. Ne venez pas tous d'une fois. Faites le tour de l'autre côté, s'il vous plaît, si vous êtes dans cette direction. Et venez, 20, maintenant 20. Combien avons-nous appelé? 25? Très bien. Arrêtons-nous une minute à 25. Très bien. Maintenant, si vous ne voulez pas rester debout trop longtemps, quand vous voyez la ligne diminuer, alors allez vous mettre derrière eux. 25, 26, 27. Attendez simplement jusqu'à ce que la ligne diminue. De cette manière, chacun n'aura pas à rester debout trop longtemps. Maintenant, inclinons nos têtes. Oh, mes amis. Maintenant quoi? Maintenant, où en sommes-nous? Nous en sommes à la fin. Nous sommes arrivés au temps où quelque chose doit s'accomplir. Il y a un choix à faire. Dieu doit être trouvé vrai ou faux. Aujourd'hui, j'ai prêché deux sermons à Sisyphe, essayant de vous dire qui il est, essayant de vous dire que le temps est bientôt fini, ce qu'il est, ce qu'il était. Et maintenant que nous regardons ce soir, regardons à lui. Que chaque personne, au nom de Jésus-Christ, restez à votre place. Ne bougez pas, restez bien tranquille jusqu'à ce que vous soyez appelés. Que les petits-enfants, maintenant si éventuellement je dis, inclinez vos têtes, fais-le rapidement mon petit chou. Parce que des choses mauvaises, telles que le cancer et les maladies partent, vont parmi les gens et rentrent dans d'autres. que tous ceux qui le croient, qui savent que c'est l'Écriture, disent « Amen ». Nous voyons dans la Bible que les mauvais esprits allèrent de l'un à l'autre quand ils furent chassés, essayèrent de trouver une place. Et combien de fois avons-nous vu dans les réunions, les gens viennent aux réunions en parfaite santé, ils s'assoient là, critiquent, et un jour ou deux plus tard se retrouvent totalement aveugles, frappés d'un cancer ou paralysés. Voyez-vous? Parce qu'ils étaient des incroyants. Je ne suis pas responsable pour eux, seulement pour les croyants. Beaucoup sont dans des institutions depuis de nombreuses années, et ils sont toujours. Certains sont morts pour avoir été simplement arrogants et incrédules. Il n'y a maintenant pas de place pour un incroyant. Il n'y a de la place que pour les croyants. Ayez foi en Dieu. Père Céleste, maintenant la réunion t'appartient. Elle t'a toujours appartenu. Je peux parler de ta parole, mais dès cet instant, je ne peux plus parler. Tu es celui qui parle, Seigneur. Que l'on sache que ce que ton serviteur a dit est la vérité. Beaucoup ici, peut-être que beaucoup sont malades et ne seront même pas dans la ligne. Mais tu es toujours ici, Seigneur. Tu peux guérir là-bas, de même que partout ailleurs. Que ta parole soit manifestée, je te le demande au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Maintenant, pourrais-je obtenir toute votre attention pendant quelques instants? Je veux parcourir des yeux cette ligne de prière. Je ne crois vraiment pas que je connaisse une seule personne. Vous, dans cette ligne de prière, êtes-vous tous des étrangers pour moi, sachant que je ne vous connais pas? Levez la main si c'est le cas. C'est bien ainsi. Combien dans l'auditoire savent que je ne sais rien à leur sujet? Levez la main. Dans l'auditoire, assurément, je ne connais pas le 95% des gens. C'est vrai. Voici une dame. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle m'est totalement étrangère. Maintenant, il se peut qu'elle soit ici à cause de la maladie. Il se peut qu'elle soit ici. Peut-être a-t-elle fait quelque chose, peut-être. Peut-être est-elle ici à cause de problèmes financiers. Peut-être a-t-elle évité de problèmes familiaux. Peut-être est-elle ici pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. N'ai aucune idée. Mais voici exactement la même image que dans Saint Jean chapitre 4. Un homme et une femme se rencontrent la première fois. Et sans doute, la jeune femme qui rencontra Jésus était beaucoup plus âgée qu'elle. Parce qu'on disait qu'il paraissait avoir 50 ans ou plus. Et elle était probablement une jeune et belle jeune femme venue au puits. Ce n'était qu'une jeune fille. Et si ce soir, de nouveau, deux personnes se rencontrent, jeunes et âgées, sans se connaître. Elle est là. Il y a une raison qui fait qu'elle est là. Je ne sais pas. Elle est peut-être là comme imposteur. Elle est peut-être là pour dire quelque chose qui n'est pas, pour voir ce qui va arriver. Si c'est le cas, observez ce qui va arriver. Je ne connais pas cette dame. Je ne l'ai jamais vue. Elle a levé la main il y a quelques instants pour dire que j'étais un étranger pour elle. Et je lève la main pour attester qu'elle m'est une étrangère. Je ne l'ai jamais vue. Bien, si je, en tant qu'homme, je devrais dire, « Madame, qu'arrivez-vous? Que faites-vous ici? Que voulez-vous? » Elle dira alors, « Monsieur Branham, je suis ici parce que je souffre d'un cancer. Je souffre de la tuberculose, je souffre d'une tumeur où je n'ai plus d'argent, mon mari m'a quitté, où je ne suis pas marié, mon ami a fait... » Elle devrait me le dire. Eh bien, dirais-je, je vais prier pour vous, vous imposer les mains, dire, « Seigneur Dieu, donne à cette femme ce qu'elle désire. Amen. Jésus le fait. » Puis la laisser partir. Eh bien, je pense que si elle croyait cela, elle guérirait. C'est bien, cela a été mon ministère pendant de nombreuses années. Mais il était promis que dans les derniers jours, Dieu habiterait à nouveau dans un corps humain, à l'exemple de l'ange qui vint juste avant que Sodome soit brûlé. Il s'assit le dos tourné à la tente dans laquelle se trouvait Sarah et dit à Abraham ce qu'elle pensait dans la tente. Dieu, dans une chair humaine, portant des habits humains. C'est seulement ainsi que Dieu peut agir aujourd'hui. C'est quand il entre dans votre chair. Voyez-vous? Montrant que Dieu serait manifesté dans une chair humaine. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Nous avons le messager, Billy Graham et les autres, là-bas, dans Sodome. Mais l'Église élue a reçu le message et un messager. Maintenant, si cette âme... Si le Saint-Esprit, je ne dis pas qu'il le fera, mais s'il le fait, et venait me dire la raison pour laquelle vous êtes ici, ou ce que vous voulez, ou quelque chose que vous avez fait, ou quelque chose que vous êtes sur le point de faire, eh bien, vous sauriez que cela viendrait d'une source surnaturelle, parce que nous nous tenons simplement debout ici. Ce serait juste, n'est-ce pas? Alors vous sauriez que cela devrait venir d'une force surnaturelle. Si la Bible dit que Jésus a fait la même chose et a promis de le faire à nouveau dans les derniers jours, vous croiriez alors que c'est lui. Combien croiraient aussi cela? Alors vous verriez Jésus. Vous verriez sa parole. Maintenant vous dites, est-il la parole? La Bible déclare qu'il est la parole. Et la Bible dit que la parole discerne les pensées qui sont dans le cœur. Est-ce vrai? Alors ce sera la parole prononcée à travers une bouche humaine discernant les pensées. Maintenant, je ne peux pas le faire. Je n'ai aucun moyen de le faire, voyez-vous? Parce que je ne la connais pas. Mais lui la connaît. Et il est la parole. Et lui est celui qui peut prendre nos deux esprits, comme la femme au puits et lui, et mélanger cela, puis partir, et me montrer la raison pour laquelle elle est ici, ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle désire, etc. Alors je peux le prononcer et le dire. Ensuite, cela dépend d'elle. Vous direz peut-être, frère Branham, pouvez-vous la guérir? Non. Non, je ne peux pas. Il l'a déjà fait. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Mais c'est simplement pour élever sa foi, lui faisant ainsi savoir que s'il sait ce qu'elle était et ce qu'elle veut, il sait aussi comment le donner et ce que vous serez ensuite. Est-ce vrai? Maintenant, tout le monde croit cela. Soyez très respectueux. Et vous là-bas, qui n'avez pas de carte de prière, priez. Souvenez-vous que Jésus traversa un groupe de gens un jour et qu'une femme toucha son vêtement. Il se retourna et dit, « Qui m'a touché ?» Et il parcourut des yeux toute l'assemblée jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lui dit alors qu'elle avait une perte de sang. Elle s'arrêta à ce moment-là. Voyez-vous, la Bible dit qu'il est maintenant un souverain sacrificateur qui peut être ému par nos infirmités. Est-ce vrai? Je regarde maintenant frère Way, qui est assis là, à côté de sa femme. Récemment, cet homme se trouvait là alors que je prêchais, de même qu'une fois Paul prêcha toute la nuit, et cet homme tomba mort dans l'auditoire, et le Saint-Esprit le ramena à la vie. Il est un témoin que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Combien n'ont jamais vu frère Way et voudraient le voir? Levez la main. Vous qui ne l'avez jamais vu, frère Way, voudriez-vous vous lever? Voici l'homme. Il tomba mort à peu près à l'endroit où se trouve maintenant. Voici son épouse, une infirmière diplômée. On ne pouvait plus percevoir son pouls. Ses yeux étaient révulsés, son visage était noir, une crise cardiaque. Le docteur lui avait dit qu'il avait une maladie de cœur. J'avais découvert cela auparavant, grâce au discernement. Il n'y a pas longtemps, je lui ai dit qu'il avait une maladie de cœur. Et tout à coup, son cœur s'arrêta. Il tomba, resta étendu là, réellement mort. Cela fait environ 6 ou 8 fois que j'ai vu le Seigneur ressusciter les morts. Je l'ai vu le faire, et il peut le faire ce soir. Maintenant, je prends chaque esprit ici sous mon contrôle, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Soyez respectueux, observez. Je veux vous parler, madame. J'ai prêché, vous voyez, simplement pour capter votre esprit. C'est exactement ce que je fais. Il y a quelque chose en vous qui est vivant, sinon vous ne vous tiendriez pas là. Vous auriez simplement une forme morte, étendue, et vous n'auriez pas de vie en vous. Mais étant donné qu'il y a une vie dans cette chair, elle vous contrôle. Et maintenant, même vos pensées, ce que vous pensez, les paroles que vous prononcez, tout le reste, c'est de cela que vous vivez. C'est ce que vous êtes. Ce sont vos paroles, vos pensées, et ce que vous êtes. Maintenant, nous sommes ici des croyants. Le Saint-Esprit, comme Jésus a dit à la femme, « Apporte-moi à boire. » Quand elle lui apporta, elle dit, « Mais tu ne devrais pas me demander cela. Je suis une Samaritaine et toi, tu es un Juif. Nous n'avons pas de relation entre nous. Nous ne nous parlons pas. » Maintenant, bien sûr, nous sommes tous les deux des gentils. Et alors que nous sommes ici, nous croyons en Dieu. Maintenant, si son Esprit vient sur moi et m'accorde un don et peut vous dire ce qui... Alors, vous saurez si c'est juste ou pas, parce que vous l'aurez vécu. Alors, vous aurez un don pour le croire. Et si vous croyez cela, et qu'il vous dit ce que c'est, alors ce sera entièrement terminé, cela marchera pour chacun ici. Maintenant, que tout soit très respectueux. La dame souffre de quelque chose qui ne va pas dans sa gorge. C'est une affection de sa gorge. Si c'est juste lever la main. Or, je ne l'ai jamais vu de ma vie. C'est vrai. C'est pour cela qu'elle est ici. C'est afin que je prie pour sa gorge. Maintenant, à l'instant où je l'ai dit, ou juste avant, elle sut que quelque chose était prêt. Quelque chose s'est approché à ce moment-là. Vous pouviez voir l'émotion sur elle, un sentiment très doux. La lumière que vous voyez sur cette photographie, où êtes-vous, Georges? La lumière qui était sur la photographie se trouve au-dessus de cette femme en ce moment même. Voyez-vous, c'est une autre dimension. Elle est croyante. Pas une soi-disant croyante, c'est une croyante. Maintenant, étant donné que vous êtes croyante,
Croyez-vous que je sois son serviteur et prophète? Vous devez être une croyante pour le savoir. Croyez-vous qu'il puisse vous dire d'autres choses que vous avez sur le cœur? Très bien, voici quelque chose que vous avez sur le cœur. C'est quelqu'un pour qui vous priez, un enfant. Croyez-vous qu'il puisse me dire ce qui ne va pas chez lui? Il a un virus. Est-ce vrai? Croyez-vous que Dieu puisse me dire qui vous êtes? Vous êtes Madame Walker. Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez du sud, de la Géorgie. Retournez à la maison guérie. Jésus-Christ vous a guéri. Votre enfant, ne soyez plus inquiète. C'est terminé. Que Dieu vous bénisse, sœur. Bonjour. Maintenant, voici Notre-Dame. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Ce n'est qu'une femme qui est là. Maintenant, regardez, je prêche depuis 8 heures environ. Il est maintenant 10 heures. Cela fait 2 heures que je suis ici. Ce seul discernement m'a affaibli plus que 2 heures de prédication. Voyez-vous, c'est... Vous dites, vous voulez dire... Oh oui, lorsque cette femme touche à le bord de son vêtement, il dit, « Je sens que de la vertu est sortie de moi. » De la force, est-ce vrai? C'est ce que cela provoque. Maintenant, voici une femme que je n'ai jamais vue. Billy est allé là-bas, si vous avez remarqué quelque chose, et a pris ce garçon que nous avons ici avec nous, George. Il est baptiste. Je veux qu'il voie que ce dont nous parlons vient de Dieu. Son père, sa famille sont braves. Ils sont au Mexique comme missionnaires. Il est brave, et son père est aussi malade. J'attends simplement qu'il vienne. Maintenant, George, observe attentivement. Cette dame, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Je suppose que nous sommes étrangers l'un à l'autre. Nous ne nous connaissons pas. Mais le Saint-Esprit, la douceur de Jésus est présente. Nous en témoignons tous. Maintenant, si le Seigneur Jésus me révèle quelque chose à votre sujet, si je pouvais vous guérir, je le ferais. Mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ce qu'il a déjà fait. Seulement, s'il était debout ce soir, ici, portant ce complet qu'il m'a donné, eh bien, il ne pourrait pas vous guérir parce qu'il l'a déjà fait. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Mais la seule chose qu'il ferait serait de se déclarer lui-même selon la parole qu'il a promise. Et ainsi, vous pourriez voir qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a promis de le faire. Maintenant, s'il m'utilise pour vous dire la raison pour laquelle vous êtes ici, mettriez-vous en action votre foi en lui pour croire que vous recevrez la chose pour laquelle vous êtes ici? De tout votre cœur? Très bien, puisse le Seigneur l'accorder. Je vois que la dame a quelque chose qui ne va pas. Un examen a montré que c'était une hernie à l'estomac. C'est vrai, c'est vrai. Une hernie à l'estomac. Croyez-vous que Dieu puisse guérir cette hernie? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous n'êtes pas d'ici. Cela a été un grand sacrifice de venir ici. C'est vrai. Vous venez du Tennessee. C'est vrai. Madame Harness, rentrez chez vous. Ne doutez pas. Vous serez guérie. Si vous pouvez croire. Bonjour, madame. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Je ne vous ai jamais vu de ma vie, que je sache. Je vous ai peut-être... Quelque part dans une réunion, vous m'avez peut-être vu, mais je ne vous connais pas. Dieu vous connaît. Croyez-vous que je sois son serviteur et que la parole que j'ai prêchée est la vérité? Eh bien, étant donné que je vous suis étranger et que vous avez cru la parole que vous ai prêchée, la seule chose que... Quelqu'un vous a donné une carte, l'un des diacres, mon fils ou quelqu'un d'autre vous a donné une carte. Votre numéro a été appelé, vous voilà ici. C'est tout ce que je sais. Mais maintenant, vous souffrez de nervosité. Cela vous gêne terriblement. Vous avez quelqu'un avec vous. Vous avez quelqu'un pour qui vous priez. C'est votre mari. Et il a un problème spirituel qu'il ne peut pas surmonter. Et vous, vous avez un enfant qui est aussi malade. Vous n'êtes pas d'ici, mais vous venez du Nord. Vous venez du Canada, de l'Alberta. C'est vrai. Vous croyez que je suis le prophète de Dieu. Et vous croyez que ce que je vous dis est la vérité. Rentrez chez vous et vous recevrez ce que vous avez demandé. Croyez-le. Que Dieu vous bénisse, madame. Je vous suis étranger,
et vous m'êtes étrangère. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Croyez-vous que je sois son serviteur de tout votre cœur? Je ne vous connais pas. Je ne sais rien de vous. Si je pouvais vous guérir, je le ferais, mais je ne le peux pas. Je ne suis pas un guérisseur. Je suis simplement un homme. Mais lui est Dieu. Je suis juste un peu troublé parce qu'il y a une femme plus âgée entre moi et vous. C'est quelqu'un pour qui vous priez. Oui, c'est votre mère. Elle souffre d'hypertension. Et vous avez une infection dans les reins. C'est vrai. Le croyez-vous? Votre mère n'est pas ici. Mais quand vous irez vers elle, prenez le foulard que vous avez autour du cou. Mettez-le sur votre mère. Ne doutez pas. L'hypertension la quittera et ce sera fini. Allez, croyez maintenant. Amen. Croyez-vous maintenant? De tout votre cœur? Maintenant, vous voyez, je regarde au-dessus de l'auditoire, cela semble comme, cela commence à devenir un peu flou dans cette direction. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Il a fait plus de choses de ce genre ici ce soir que pendant tout son voyage ici-bas. C'est vrai. Maintenant, cette dame ici, c'est une jeune dame. Je ne la connais pas. Elle m'est étrangère. Mais croyez-vous que je suis son serviteur? Maintenant un instant. Un homme vient devant moi. Quelqu'un dans l'auditoire. Maintenant, juste un instant. Quelqu'un dans l'auditoire. C'est parti d'ici à ce moment-là. Cette lumière est partie d'ici. Il y avait un homme debout près d'elle. Quelque part dans l'auditoire. Ne vous inquiétez pas. Soyez courageux. Revenons d'ici et occupons-nous de cette dame. Si le Seigneur Dieu, cela fait 6 ou 7 personnes qui ont passé dans la ligne pendant le discernement. Si le Seigneur Jésus me révèle ce qui ne va pas chez cette femme, cela vous amènerait-il tous à croire de tout votre cœur? Pourriez-vous accepter Christ sur la base de ceci? Voyez-vous? Une fois devrait le prouver. 3 fois est une confirmation. Et là, il s'agit de dizaines de milliers de fois. Sans qu'une seule fois, c'est été faux. Vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour un homme. Et je le vois assis là, la tête affinée. Il fume une cigarette. Et vous priez pour que les cigarettes le quittent. Puisse le Seigneur Dieu vous accorder votre quête, sœur. Allez et croyez de tout votre cœur et puisse ce démon quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Vous souffrez du dos. Croyez-vous que Dieu va le guérir? Vous le croyez? Très bien. Allez, dites, merci Seigneur. Je connais cette femme. Je crois que c'est la fille de Madame Nice. N'est-ce pas vrai? Je l'ai pensé. Que Dieu vous bénisse. Votre mal de dos vous quittera. Maintenant, vous pouvez partir. Être guéri. Croyez-vous que Dieu puisse guérir cette arthrite et faire en sorte que vous soyez guéri? Allez lui dire que vous croyez en lui. Croyez en lui de tout votre cœur. Bonjour, monsieur. Croyez-vous que Dieu puisse guérir cette maladie d'estomac et faire que vous soyez guéri? Très bien. Alors allez. Et dites, merci Seigneur, je vais être guéri. Et vous serez guéri. J'ai eu un autre cas d'arthrite. Croyez-vous que Dieu va vous guérir si je vous impose les mains? Vous entendez cela? Que le Seigneur bénisse ma sœur et la délivre de nouveau ce soir. Amen. Croyez simplement en lui. Une maladie de cœur et une maladie d'estomac. Croyez-vous que Dieu puisse les guérir? Très bien. Allez au nom du Seigneur Jésus et croyez qu'il va vous guérir. Bonjour, jeune homme. Vous avez de l'asthme. Croyez-vous que Dieu puisse guérir l'asthme? Allez, croyez-le. Il le fera. Le diabète. Croyez-vous que Dieu puisse guérir votre sang, vous redonner la santé? Allez, croyez en lui, elle le fera. Le croyez-vous de tout votre cœur? Et s'il ne vous avait rien dit, et que vous avez simplement imposé les mains, croiriez-vous que le Saint-Esprit est ici pour vous guérir? C'est ainsi qu'il faut faire. Venez ici, au nom de Jésus-Christ, puisse-t-il partir être guéri. Amen. Venez, madame, s'il ne vous disait rien, croyez-vous que Dieu vous guérirait de cette maladie de femme? Oh, excusez-moi, il l'a déjà dit. Vous pouvez aller, que Dieu vous bénisse. Allez, croyez en lui, soyez guéri. Croyez-vous, monsieur, de tout votre cœur? Dieu peut guérir un cœur malade, n'est-ce pas? Il guérit les hommes. Le fait assurément, il est Dieu. Le croyez-vous? Croyez-vous de tout votre cœur? Ayez foi en Dieu. Un homme par ici a fait quelque chose il y a quelques minutes, et je veux savoir de quoi il s'agit. Son sang. Quelque chose comme un accident est arrivé. Cela saignait. Il était quelque part. Un homme était debout là. Maintenant, priez simplement. Oui, c'est ça. C'est un homme qui est assis. Mais c'est Yves T. Parnell. Je le connais. Vous souffrez d'hémorragie interne. Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Très bien. Alors, cela va cesser. Croyez de tout votre cœur. La dame qui est assise là, qui regarde dans cette direction, assise là près de Frère Kinsley, il y a une lumière près d'elle, vous, avec le petit col blanc.
Mary?
Je ne vous connais pas, mais c'est votre nom. Vous êtes gênée par un problème spirituel, et vous êtes aussi très nerveuse. Oubliez ça, ce sera en ordre. Croyez de tout votre cœur. Ayez foi en Dieu. Puis seulement vous pouvez croire. La dame qui est assise juste là, de la rangée du fond de ce côté-là, elle vient du Michigan. Elle souffre d'une maladie de femme. Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Alors vous pouvez avoir ce que vous demandez. Le croyez-vous? Amen. Levez les mains et dites, je l'accepte. Très bien. Vous pouvez aller à la maison et être guéri. Je ne la connais pas, mais Dieu la connaît. Qu'en est-il de vous ici sur cette civière? Vous êtes le seul estropié ou le seul homme sur une civière. Je suis un étranger pour vous. Je ne vous connais pas. Dieu vous connaît. Mais je vois maintenant que vous êtes couvert par la mort. Vous avez le cancer. Vous venez de loin. Vous venez de Cincinnati. Vous vous appelez Monsieur Hawk. Croyez-vous de tout votre cœur? Si vous restez couché là, vous mourrez. Acceptez Jésus-Christ et soyez guéri. Croyez-vous en lui? Alors levez-vous de ce brancard. Acceptez Jésus-Christ. Combien y croient en lui en cet instant? Croyez-vous de tout votre cœur? Alors que chacun se lève maintenant. Levez-vous. Maintenant, à votre manière, à vous, la manière dont vous priez, posez la main sur quelqu'un près de vous. Où est Sœur Brown? Elle était ici souffrant de ce. L'autre jour, elle m'a appelé par téléphone et m'a dit qu'elle ne pouvait pas lever les mains. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son sang. Quand je l'ai rencontrée l'autre jour, elle a le diabète. Où est-elle? Elle était avec Mademoiselle Dor il y a quelques instants. Très bien, Sœur Brown, ce soir, je veux que vous croyiez de tout votre cœur. Je vous connais, je sais ce qui ne va pas chez vous. Mais je veux que vous croyiez, vous êtes sorti de l'hôpital pour venir ici. Voyez-vous? Afin que l'on prie pour vous. Je prie pour vous, sœur. Croyez, vous serez guéri. Margie, ayez foi en Dieu. Cela va vous quitter maintenant, ce sera fini. S'il peut guérir le diabète, il peut vous guérir de cette maladie d'estomac. Maintenant que chacun de vous pose ses mains sur quelqu'un d'autre, et laissez-y vos mains une minute. Imposez-vous simplement les mains les uns aux autres. Voyez-vous, c'est bientôt 11h et beaucoup de ces personnes doivent prendre en voiture jusqu'au Tennessee, à différents endroits. Assurément, le Seigneur Dieu a prouvé. Qu'avez-vous vu ce soir? Avez-vous vu un homme ou avez-vous vu Jésus? Jésus confirmant sa parole. Ces mouchoirs qui sont loin sont là. Pendant que cette onction est sur moi, j'ai posé ma main sur eux, priant que le Dieu Tout-Puissant. Ils dirent qu'ils retirèrent du corps de Paul des mouchoirs ou des linges. Il y a ici ceux qui étaient morts et qui ont été ressuscités. Il y a ici ceux qui ont eu des accidents, qui ont été écrasés et qui sont guéris. Il y a, je vois là Mademoiselle Whistler. Il n'y a pas longtemps, elle était mourante à cause d'hémorragie provoquée par la tuberculose. Cela fait des années qu'elle est ici ce soir. Les médecins ne lui avaient donné que pour quelques heures à vivre. Mais elle est ici ce soir, partout. Ici, il y a des gens qui étaient boiteux, aveugles, estropiés dans des chaises roulantes. Et tout le reste qui sont là ce soir, comme des trophées vivants. Qu'est-ce? Jésus-Christ vit. Il est vivant. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Cet homme dont j'ai donné le témoignage il y a quelques instants était atteint d'épilepsie depuis des années. Et après une certaine réunion, il y a presque 20 ans, il n'a plus eu jamais de crise. L'enfer, un sur des dizaines de milliers, il est celui qui guérit. Amen, il guérit. Maintenant, ne soyez pas excités. Mais ayez simplement cette foi d'enfant et tournez vos regards vers le calvaire. Fermez les yeux et oubliez que vous êtes dans ce tabernacle. Fermez les yeux et oubliez qu'il y a quelqu'un à côté de vous et regardez à Jésus et voyez. Regardez, maintenant Jésus est vivant. C'est enregistré dans la parole. Alléluia, il faut seulement que nous regardions pour vivre. Oh, regardez, vis mon frère, vis. Regarde, maintenant Jésus est vivant. C'est enregistré dans la parole. Alléluia, il te faut seulement regarder pour vivre. Fermez les yeux à tout ce qui vous entoure. Regardez votre foi en Jésus-Christ. Sachez qu'il fut blessé pour vos péchés et que par ses meurtrissures vous êtes guéri. Seigneur Jésus, alors que ces gens prient et s'imposent les mains, puissions-nous réaliser que nous nous tenons dans la présence de Jésus-Christ, vivant et ressuscité sous la forme du Saint-Esprit, nous révélant le secret des cœurs, nous faisant connaître nos désirs et nous promettant qu'il nous donnerait ce que nous désirons si seulement nous voulions croire. Hommes et femmes ont leurs mains posées sur quelqu'un d'autre. Ils prient parce que nous sommes des concitoyens du royaume de Dieu. Nous sommes des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Satan, nous venons vers toi te jeter un défi. Au nom du Seigneur Jésus, il est l'épée. Il est celui qui ôte la maladie. Il est celui qui enlève le doute. Il est le vainqueur. Maintenant, Satan, nous te mettons au défi et t'ordonnons au nom de Jésus-Christ de sortir de ces gens. La parole de Dieu est manifestée. Elle circoncira cela. Elle enlève le doute. Elle ôte la maladie et apporte une parfaite délivrance. Nous prions pour que le Saint-Esprit descende sur ces gens. Elle leur donne la puissance de la foi pour croire que la présence du Christ Tout-Puissant est ici maintenant. Accorde-le, Seigneur. Je condamne chaque maladie. Je condamne toute affliction. Je condamne toute incrédulité. Au nom de Jésus-Christ, puisse le Saint-Esprit honorer ce que j'ai dit. Passez au travers de ce bâtiment et guérir chaque personne par sa divine présence. Maintenant, levez les mains et louez-le. Je vous déclare guéri au nom de Jésus-Christ.
Blessed be the name of the Lord. Amen. Glory to God. Tell me when he passed by. Amen. Here.